Vous êtes sur RTL.
Les changements de saison, ça m'inquiète beaucoup. Merci à toute l'équipe des Petits Matins, merci à vous Jérôme. Votre argent, vos matchs de foot, vos élections, tout ce qui vous concerne sera présent dans cette patinale d'informations. Par ordre d'entrée en scène, commençons par les violences dans les stades. Elles ont pris des proportions anormales et inquiétantes ces dernières semaines. Analyse de notre spécialiste Philippe Sansfourche et réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à partir de 7h15. Votre argent, je recevrai à 8h20 le tout nouveau président de la Fédération Française Bancaire. Épargne, pouvoir d'achat, endettement du pays et menace du Bitcoin seront au cœur de cet entretien. Entre-temps, François Langlais nous aura quand même rappelé que décidément, la France reste championne du monde des dépenses publiques et que surtout, ça ne profite pas à notre croissance. Enfin, l'invité politique d'RTL et de Benjamin Sportouche et ce matin, Daniel Cohn-Bendit, la primaire écolo, les élections en Allemagne, la présidence Macron à 7 mois pile du second tour de l'élection présidentielle. Daniel Cohn-Bendit revoterait-il pour lui? En tout cas, dans notre baromètre BVA Orange, Emmanuel Macron gagne 6 points et retrouve sa popularité de juin 2018 avant la crise des Gilets jaunes. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, quand les maris violents se mettent à la place de leurs femmes et enfants terrorisés.
Oui, avec un casque de réalité virtuelle, ils sont plongés dans l'enfer qu'ils font vivre à leurs proches. Il a traité Éric Zemmour de raciste, Jean-Luc Mélenchon s'est vu qualifié en retour de coupeur de tête. Comme prévu, le débat a été tendu entre les deux hommes. Dans ce journal, un soignant en Guyane fâché contre Christiane Taubira et son refus hier sur RTL d'appeler à la vaccination. Un enfant de 11 ans qui reçoit un siège sur la tête dans un stade et le football français sommé à nouveau de se débarrasser des hooligans. Et puis quand même un peu d'honnêteté dans ce monde. Un musicien avait vu sa recette d'un soir s'envoler littéralement dans un champ. L'agriculteur lui a ramené les 1500 euros en petite coupure.
La politique, Olivier Bost.
Eh ben, il n'y avait pas que Zemmour et Mélenchon. Hier soir, je vous propose tout à l'heure une soirée multiplex des débats de cette pré-présidentielle.
Avec plaisir et dès la fin du journal.
RTL Matin.
Soigner les maris violents après les avoir condamnés. C'est un programme original que va tester pendant un an le ministère de la Justice. Confronter les agresseurs à leurs actes en les plongeant dans le chaos qu'ils créent au sein de leur propre famille. Le tout comme dans un jeu vidéo immersif grâce à un casque de réalité virtuelle à ENAF.
Grâce à ce casque, on se retrouve tour à tour dans la peau du mari violent, de sa femme.
La bouffe est pas prête ?
Et de leur enfant.
Ferme ta gueule, putain !
Cette technologie permet de se mettre à la place de la victime. Guillaume Clerc préside la société Reverto.
De comprendre ce qu'elle peut vivre, que ça soit en termes de peur, que ça soit en termes de contrôle, de sentiment d'insécurité. Et pour les auteurs de violences conjugales, c'est extrêmement important pour reconnaître les faits et comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qu'a vécu la victime.
Pour Géraud Delabrosse, chargé du projet au ministère de la Justice, le but est aussi d'engager un dialogue.
C'est-à-dire que l'objectif final, c'est la baisse de la récidive, mais l'objectif premier, c'est d'une part de changer la perception des auteurs par rapport à leur propre comportement, mais aussi d'initier la discussion avec les personnels pénitentiaires qui sont là pour les accompagner dans leur réinsertion.
28 conjoints violents volontaires ont commencé à tester ce casque de réalité virtuelle. Le bilan de l'opération qui coûte 117 000 euros sera fait dans un an.
Merci Anne Le Hénaff. C'est le garde des Sceaux, donc Éric Dupond-Moretti, qui va présenter ce programme aujourd'hui à Poitiers. Il fera un bilan également de la mise en place des bracelets anti-rapprochement. Et on rappelle ce chiffre dramatique, 86 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. En bref, de vrais voyous pour de faux passes sanitaires. La police judiciaire d'Orléans a démantelé un réseau. Une infirmière était la complice de délinquants chevronnés. Elle recevait les patients mais jetait les doses à la poubelle. Au-delà de cette seule affaire, en moins de deux mois, 36 000 personnes sont soupçonnées d'avoir eu recours à un QR code falsifié.
Impressionnant. Comme prévu, le débat hier soir entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour a été, comment dirais-je, musclé.
Et comme prévu, Il a fallu attendre une heure avant de parler d'autre chose que de sécurité et d'immigration. Éric Zemmour a développé son thème de prédilection sur le grand remplacement, affirmant notamment que la délinquance était un djihad, provoquant alors la colère de Jean-Luc Mélenchon.
À quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour? Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste. Vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse.
Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus.
C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine.
Voilà Jean-Luc Mélenchon qui avait dit espérer au début du débat que ce ne soit pas une guerre de coq. Il n'a pas tout à fait tenu la promesse hier soir. Emmanuel Macron, lui, gagne 6 points de popularité à 46% d'opinion favorable. Il revient au niveau d'avant la crise des Gilets jaunes. C'est le résultat de notre baromètre BVA Orange pour RTL. Autre enseignement, 2 Français sur 3 sont favorables à la prolongation éventuelle du pass sanitaire.
Et on en vient aux propos hier matin de Christiane Taubira sur RTL qui ont suscité une vive polémique.
Elle a refusé de lancer un appel clair à la vaccination en estimant ne pas avoir suffisamment d'informations. Et ses propos ont été critiqués, notamment en Guyane où la situation sanitaire est dramatique. Le docteur Loïc Eppelboin, par exemple, est infectiologue au centre hospitalier de Cayenne et il attendait beaucoup plus de Christiane Taubira.
On aurait aimé avoir un message très fort de Madame Taubira. Ça va pas bien, en fait. On a une vague de Covid qui n'en finit pas. La quatrième vague qui est venue recouvrir rapidement la troisième vague. On a à peine un quart de la population qui est vaccinée. Et bien sûr que j'aurais aimé qu'elle crie « Guyanais, vaccinez-vous », mais elle a ses raisons de ne pas le faire, sûrement.
Des propos recueillis par Valentin Boisset. Précisons que l'ancienne ministre de la Justice a voulu donc préciser hier dans l'après-midi qu'elle était elle-même vaccinée et elle a qualifié également les arguments anti-vax de tissu d'imbécilité. En bref, le charme de la lenteur, la SNCF réintroduit des trains corail low cost sur des grandes distances, des billets entre 10 et 30 euros et on aura le temps de regarder le paysage et de compter les vaches. 4 heures de trajet pour Nantes, 5 heures pour Lyon et l'objectif de concurrencer in fine les cars Macron ou encore le covoiturage.
Heureusement que c'est pas cher. Hein. Dans un instant, vous entendrez cet enfant de 11 ans blessé au Parc des Princes la semaine dernière. Le football français doit faire le ménage chez ses supporters et nous vous en parlerons largement ce matin.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal d'Olivier Bois et le rêve gâché d'un petit garçon de 11 ans dimanche dernier au Parc des Princes.
Oui, Lucas allait pour la première fois au stade avec l'euphorie de découvrir en vrai son idole Lionel Messi. Il est reparti le crâne ouvert, blessé par un siège jeté par un hooligan lyonnais.
J'y allais avec plein d'envie, j'étais super heureux et ce rêve il s'est transformé en cauchemar. Juste avant le pénalty qui a été transformé par Neymar, ça a commencé à s'agiter entre les Parisiens et les Lyonnais. Les Lyonnais essayaient d'escalader les vitres et au bout d'un moment, il y a un siège qui a volé, il a atterri sur ma tête. Et donc du coup, j'ai été d'urgence à l'infirmerie du Parc des Princes. J'ai un souvenir, mais un mauvais, j'aurais préféré avoir un bon souvenir avec Messi et, au lieu d'avoir une blessure sur la tête.
Et le rêve gâché donc de Lucas qui répondait à Morad Djabari. Les incidents entre supporters depuis le début de la saison se sont multipliés à Nice, à Marseille ou encore à Montpellier. Alors dans l'euphorie du déconfinement et du retour du public, les clubs ont-ils été trop laxistes avec les hooligans? On en parle avec Philippe Sanfour chez la Brigade RTL et ensuite avec la ministre des Sports Roxana Maracine à nous juste après 7h15.
Elle a connu 4 présidents français et 7 premiers ministres. Angela Merkel s'apprête à passer la main.
Oui, elle va quitter la chancellerie après 16 ans de pouvoir. Les élections législatives ont lieu ce dimanche. On parle souvent de son bon bilan économique, de son calme également rassurant. On oublie aussi qu'elle est devenue un vrai modèle féministe pour les jeunes allemandes qui n'ont finalement connu quasiment qu'elle, Yannick Holland.
Oui, difficile d'imaginer la vie après Angela Merkel pour cette génération à l'image de Marilyn, 24 ans.
Mais moi, par exemple, je ne peux pas imaginer d'avoir un chancelier, un homme, c'est trop bizarre.
Il faut dire qu'Angela Merkel est devenue un modèle, particulièrement pour les jeunes filles qui ont grandi pendant cette période, à l'image de Paulina, 24 ans, qui vient de Stuttgart.
Elle a surtout donné aussi une image d'une femme qui peut être au pouvoir, et mieux que plein d'hommes, ou que beaucoup d'hommes, et... Elle était au centre de tous ces hommes, mais elle était, ouais, elle était toujours là. Et peut-être, c'est bien aussi que ça change maintenant, que maintenant il peut avoir un nouveau vent et ouais, une nouvelle personne.
Elle ne va pas te manquer.
Si, je crois, mais il faut du changement aussi.
Et pour Paulina, comme pour l'immense majorité de cette génération Merkel, ce départ de la chancelière se fera finalement avec beaucoup de nostalgie.
Merci Yannick Holland, envoyé spécial d'RTL en Allemagne. Et puis on apprend ce matin à l'instant que l'ex-policier américain Derek Chauvin fait appel de la condamnation à 22 ans et demi de prison prononcée contre lui pour le meurtre de George Floyd l'année dernière.
Allez, maintenant une histoire qui met un peu de baume au cœur. L'être humain peut aussi être bon et ça fait du bien de le rappeler de temps à autre.
Oui, comment un musicien des Alpes de Haute Haute-Provence a retrouvé toute la recette de l'un de ses spectacles grâce à l'honnêteté d'un agriculteur. C'est vous qui nous racontez cette histoire, Serge Pueyot.
Alors qu'il se trouve sur son triporteur, Philippe Serran, artiste pianiste qui va de village en village, perd 1500 euros.
J'avais rangé toutes les recettes de ma tournée là, dans une enveloppe à l'intérieur de la valise qui était dans mon triporteur et j'avais mal refermé cette valise. L'enveloppe s'est ouverte et s'est répandue sur la chaussée.
Sur la commune de Claret, dans les Alpes de Haute-Provence, un agriculteur va découvrir cet argent sur la route.
D'un seul coup, je vois des billets, je pense que c'est un jeu de Monopoly qui s'est égaré. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des billets de 10 euros, de 20 euros éparpillés. Je m'arrête et je ramasse ces billets tout simplement.
Philippe, lui, lance un appel désespéré dans le Dauphiné libéré. L'agriculteur va le voir et très vite le contacter pour lui rendre ses 1500 euros.
De restituer cette somme, j'ai rendu service à quelqu'un, quoi. Comme je vous dis, je suis pas un super héros, quoi. J'ai rien fait d'extraordinaire.
Philippe Serran salue ce geste.
Je suis lui tire mon chapeau, quoi. C'est super beau ce qu'il a fait. Je voulais le récompenser, je voulais lui donner un peu d'argent. Il a rien accepté. Par contre, il m'a dit, vous viendrez faire un concert gratuit dans mon village. Et je lui dis, chiche, pourquoi pas.
Eh ben, c'est très sympa.
Voilà, il perd pas le nord, mais bon, il a eu l'honnêteté de ramener les 1500 euros, ça fait aussi du bien à entendre. Merci beaucoup Serge Pueyot.
Pour perdre un peu d'argent, les courses, elles ont lieu à Vincennes.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 2, le 13, le 3, le 12, le 11 et le 6. Et la dernière minute, c'est le 2. Et on ne perd jamais d'argent, vous savez, avec les pronostics de Dominique Cordier.
Ah bah jamais. Jamais. Ça, j'ai entendu un cheval, là. Hein. Oui, c'est voilà. Parfait. Le journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, vous avez suivi le multiplex des débats hier soir. Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour, Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin. Tout le monde n'est pas candidat, mais tout le monde avait à y gagner, Olivier.
Oui, et c'est d'abord d'ailleurs ce qu'il faut bien avoir en tête, les intérêts des uns et des autres, avant de vraiment s'intéresser à qui a dit quoi. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, en ce mois de septembre, cherche une dynamique de celle qui pourrait l'amener à reproduire ce qui ressemble à un exploit lointain. En 2017, il était arrivé à capter une forme de vote utile ou de vote par défaut de la gauche. 5 ans plus tard, ce n'est plus une évidence. Les excès de Jean-Luc Mélenchon sont passés par là. Hier soir, il avait donc besoin d'envoyer ce message. La gauche, c'est moi. Face à lui, Éric Zemmour est dans une toute autre position. Il est, lui, en dynamique et candidat non déclaré. Il diffuse ses idées, travaille sa stature. Éric Zemmour, c'est le trublion, c'est moi, puisque c'est la recette de sa réussite.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
Alors, chacun dans son sillon, sans que rien n'accroche vraiment l'autre. Seuls ceux qui ne connaissaient pas Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour auront appris quelque chose sur leurs idées ou leurs discours, ce qui est déjà ça, me direz-vous. Oui. En fait, chacun s'est appuyé sur l'autre pour dérouler tranquillement son analyse. Deux analyses radicalement opposées. La joute verbale était de qualité, sans aucun doute, jusqu'au moment où nous avons entendu Jean-Luc Mélenchon reprocher à Éric Zemmour d'être bouffi de certitude. Là, c'était un peu trop. Oui.
Alors voilà pour le duel Mélenchon-Zemmour et Pécresse d'Arman.
Alors pour Valérie Pécresse, l'enjeu de la soirée était de trouver une dynamique qui lui fait défaut pour l'instant. Et je dirais même qu'il s'agissait de nous ôter d'un doute. Oui, elle veut devenir présidente de la République. Qu'elle puisse dire d'ici Noël, la droite, c'est moi. Face à elle, Gérald Darmanin joue une autre crédibilité. Il se veut, lui, le garant de la force du président sur le régalien. Il veut, dans la campagne présidentielle, avait-il confié au JDD, retirer les dernières bulles d'oxygène aux Républicains et aux Rassemblement National, rien que ça.
Bon alors, le résultat, ça donne quoi?
Alors normalement, Gérald Darmanin est très cruel quand il attaque son ancienne famille politique, ses copains d'avant, sans doute la culpabilité du transfuge ou du traître. Mais hier soir, le ministre de l'Intérieur a décidé de jouer à contre-emploi.
Ah oui.
Il a appuyé sur le peu de différence avec Valérie, comme il l'a souvent appelée, avant de lui servir du Madame la Présidente, et de lui proposer de mettre toute son énergie au service d'Emmanuel Macron. Ah. Valérie Pécresse avait un angle d'attaque qu'elle n'a pas lâché. Gérald Darmanin est un homme de droite, a-t-elle dit, dans une majorité de gauche, il est donc ligoté. En retour, il lui reprocha d'être obligé de se caricaturer le temps de la campagne.
Quelle est la conclusion de votre soirée télévisée?
Eh bien que le récit de la présidentielle n'est pas encore là. Je n'ai assisté qu'aux prémices, qu'à un tour de chauffe de la présidentielle. Tout le monde se cherche encore une place, et d'abord une place sur l'affiche. Et en attendant, hier soir, c'était juste pour le plaisir de la joute.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, c'est Daniel Cohn-Bendit, j'ai failli m'étouffer, qui sera l'invité de Benjamin Sportouche. Entre le départ d'Angela Merkel, nous aurons beaucoup de questions à poser à l'ancien eurodéputé écolo. Dans un instant, RTL événement, comment lutter contre la violence dans les tribunes et en marge des rencontres de football. Nous ferons le point avec notre brigade de l'actualité et Philippe Sansfourche. Et nous serons avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. À nous.
RTL événement.
Il est 7h16, vous l'avez entendu dans le journal d'Olivier Bois avec le témoignage de ce petit garçon qui a été blessé au Parc des Princes. Les incidents en marge des matchs de football se multiplient dans les stades depuis la reprise du championnat. Envahissement de terrain encore mercredi soir à Angers, où les supporters marseillais et angevins se sont violemment affrontés. Même scène de bagarre lors de Lens-Lille le week-end dernier. On se souvient également de Nice-OM où les joueurs avaient été directement agressés. Bonjour Philippe Sansfourche.
Bonjour.
Comment expliquer une telle flambée de violence absolument partout? Que se passe-t-il?
Alors plusieurs hypothèses. Il y a l'effet des confinement, sauf qu'on s'aperçoit que le problème est français, hein, rien en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Il y a le volet financier, les clubs ont beaucoup souffert, on l'a dit pendant la crise, on économise sur tous les postes et aussi celui de la sécurité, moins de personnel, et bien plus de débordements. Les infrastructures sont également mises en cause pour l'Euro 2016, on s'en souvient en France, on a voulu des stades conviviaux, ouverts, entre tribunes, sans filet de protection par exemple. Faut-il revenir en arrière? Enfin, le profil des ultras. On a vu ça et là, ces derniers temps, des références extrémistes dans les stades, des bras tendus. Y a-t-il émergence d'un nouvel hooliganisme politisé? La question se pose.
Bon, quelles sont les solutions envisagées? Faut-il interdire tout simplement les déplacements de supporters pour éviter les affrontements?
Alors, toutes ces sanctions collectives, c'est l'inverse de la politique engagée depuis 2016. Dialogue, concertation avec les supporters pour faire en sorte que les clubs aient les moyens de filtrer, entre guillemets, les bons, les mauvais élèves. Dans les faits, eh bien, la Ligue, les clubs hésitent pourtant à porter plainte, à écarter les fauteurs de troubles. Ils renvoient le plus souvent la balle au pouvoir public.
Alors le foot revient très vite ce week-end, Philippe, avec des matchs qui peuvent être chauds. Saint-Etienne-Nice samedi, Marseille-Lens dimanche. Que faut-il faire dans l'urgence?
Il semble que les avis divergent. Prenez l'exemple justement de Marseille-Lens. La préfecture des Bouches-du-Rhône hier encore confirme que les supporters lensois pourront bien être accueillis en toute sécurité. Et dans le même temps, le club de Lens déconseille officiellement à ses supporters de se déplacer. Pas d'interdiction collective, on l'a dit. Pas de dissolution d'association de supporters. En revanche, de lourdes sanctions individuelles, comme la récente peine requise contre un supporter niçois qui avait agressé Dimitri Payet lors du fameux Nice OM. 1 an de prison, dont 6 mois ferme et 5 ans d'interdiction de stade.
Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Bonjour Roxana Maracineanu.
Bonjour.
Vous êtes notre ministre délégué chargé des sports. On est ravis de pouvoir vous donner la parole ce matin. Je vais être très simple en cas de question. Faut-il interdire les déplacements de supporters aujourd'hui dans notre pays, au moment où nous parlons?
C'est vrai que personne n'a vu cette violence arriver aujourd'hui qu'on constate, et 5% des matchs où il y a de telles violences, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est suffisant pour qu'on se mette tous autour de la table et qu'on réagisse. Alors, est-ce que réagir, ça veut dire interdire le déplacement des supporters? Si c'est une mesure d'urgence qu'il faudra prendre, on la prendra. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que tout le monde se mette autour de la table et qu'on travaille ce sujet. Nous avions commencé à le faire avant la crise. Il faut qu'on continue, parce que la solution, ce n'est pas de pénaliser tous les supporters à cause de personnes violentes et qui s'en prennent aux autres, y compris parfois aux joueurs.
Alors, les clubs sont-ils complices de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils ne font pas suffisamment le ménage parmi les supporters?
En tout cas, les clubs ont un rôle important à jouer. Les associations de supporters également, et les autres supporters qui ne sont pas violents, doivent aussi jouer un rôle.
Oui.
Évidemment, nous, les instances publiques, avec des déplacements, des interdictions de déplacement quand c'est nécessaire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous responsabilisés dans cette affaire, que ce soit les instances du football, la fédération, la ligue, mais aussi les clubs, et cette relation qui s'instaure au moment de la vente des billets entre les clubs et leurs abonnés.
Vous leur lancez un appel ce matin pour qu'ils prennent en charge notamment ce qui relève de la vente de billets? C'est-à-dire qu'ils soient plus attentifs aux gens à qui ils vendent des billets. C'est aussi simple que ça, hein.
Ils ont un arsenal, y compris législatif, qui leur permet aujourd'hui de pouvoir recenser les personnes à qui ils vendent les billets. Ils les connaissent nominativement. Les billets, ça se vend nominativement. Il y a des conditions générales de vente quand on les vend. Et puis derrière, qui implique qu'on peut arrêter de les vendre à des personnes qui mettent le trouble et qui font de telles fautes dans les gradins. Ensuite, évidemment, tout ça, ça se conjugue avec d'autres mesures qui doivent être plus importantes. Quand il s'agit d'incivilité, oui, il faut prévenir. On peut aussi travailler sur le dialogue, mais en amont de telles violences au moment des matchs. Mais évidemment, il faut avoir une action coordonnée entre tout le monde. Tous ceux qui peuvent agir doivent agir en même temps et d'une seule voix.
On a quand même une étrange, je dirais, sensation de complicité, c'est-à-dire de double langage des clubs. Alors, il ne faut pas leur tomber dessus, je dirais, brutalement. C'est difficile à gérer, mais enfin, ça fait quand même très longtemps que ça dure et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on vend ses billets, on veut des supporters qui soutiennent et dès que ça dérape un peu, oh là là, ce n'est pas de notre faute, etc. Enfin, qui est responsable au final ? Les supporters, les clubs, la Ligue, les pouvoirs publics ? Est-ce que vous faites un choix là-dedans ?
Ben c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'avis de mettre la poussière sous le tapis et de recommencer comme au bon vieux temps en interdisant les déplacements des supporters et que tout ça, finalement, n'échoue qu'à l'État. J'ai envie que tous, en responsabilité, on en discute et qu'on voit ce qu'on peut améliorer, que ce soit dans les statuts, les règlements disciplinaires de la Fédération et de la Ligue, que ce soit dans cette relation entre les clubs et leurs supporters. Et enfin, dans cette relation entre les associations de supporters qui doivent aussi être responsabilisées par rapport à ça et les éléments, mais les individus de ces associations ou des gradins qui viennent là pour autre chose que pour regarder un match de football.
Madame la ministre, les textes existent, les sanctions possibles existent et pour tout vous dire, on a l'impression que vous êtes bien seule. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous à dire il va falloir faire des choses, il va falloir que ça bouge et avoir envie que ça le soit. Pourtant, on a des textes qui existent, on peut agir dès aujourd'hui.
Bah, dès la semaine prochaine, on va parler à trois voix avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, oui, et moi-même, puisque la division nationale de lutte contre l'hooliganisme va se réunir, va nous réunir les trois ministères avec la Ligue et la Fédération. Et nous prendrons, suite à cette réunion, des décisions, j'espère, importantes et qui vont changer les choses.
Vous avez l'impression que tout le monde joue le jeu et qu'on est de bonne foi dans ces affaires ?
Il va bien falloir, parce que le témoignage qu'on a entendu sur votre antenne, moi j'ai pas envie que ça se reproduise, je suis maman de 4 enfants et j'ai envie que mes enfants ils puissent aller au foot tranquillement, regarder un match de football en toute sécurité.
Zéro violence dans les prochains mois, c'est possible, vous vous engagez ?
Il faut qu'on s'engage tous, je m'engage pas toute seule, on a des corps intermédiaires en France, on a des délégations de services publics données aux fédérations qui les donnent aux ligues, on est tous en responsabilité, je sais que les clubs ont vécu des périodes difficiles. C'est pour ça qu'on est à leur côté aujourd'hui. On les a aidés financièrement, on les a aidés moralement. C'est pour ça aussi, sans doute, qu'ils font appel à nous de manière très facile et très rapide. Mais il faut que tous, on soit en responsabilité parce qu'il en va derrière aussi du modèle économique des clubs et de la relation que les présidents de clubs, que les joueurs de ce club pourront continuer à avoir avec leurs abonnés, avec les amoureux du football. Je dis toujours, les supporters, c'est les 12e hommes, c'est le 12e homme du match et il faut le considérer comme tel. Et tout ça, ça passe par des droits supplémentaires pour les supporters peut-être, mais surtout des devoirs aussi. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher, en responsabilisant les gens. Ce n'est pas des enfants, on est des adultes. Et il faut qu'on agisse comme tel et qu'on mette au banc ceux qui méritent de l'être.
En tout cas, je retiens votre première réponse à cette interview. Merci Roxana Maracineanu. Si c'est une mesure d'urgence, on la prendra. En l'occurrence, interdire éventuellement les déplacements des supporters. Merci Madame la Ministre, merci aussi à Jonathan Griveaux qui était à vos côtés pour vous donner techniquement la parole ce matin. Dans un instant, on va retrouver notre pépite musicale avec Steven Bellery.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Eddie Mitchell dévoile sa première chanson inédite depuis 6 ans aujourd'hui.
Et surprise, Eddie Mitchell, le grand pudique, rend hommage à son pote Johnny Hallyday. La chanson s'appelle « Un petit peu d'amour ». C'est une ballade blues, émouvante et pleine de regrets. Écrite rapidement il y a 2 ans, « T'as brûlé toute ta vie, c'est pas faute de pas t'avoir prévenu, t'as rien écouté », chante-t-il. Jamais il ne cite le nom de Johnny dans le titre, mais on devine très vite qui est le demi-dieu, héros de la rue, invincible qu'il met en scène sur une musique de Pierre Papadiamandis. Cette chanson m'est venue parce que je lui en veux, ma confié Eddie Mitchell. Je lui en veux d'être parti et d'avoir fait l'imbécile toute sa vie. Johnny était un vrai battant, mais qui ne prenait pas soin de lui. Il a brûlé sa vie, m'a raconté le chanteur de 79 ans. Mes conseils, il les écoutait, mais ça ne durait jamais. Eddie Mitchell voit ce titre comme une révérence, plus que de l'amitié, un petit peu d'amour.
Juste avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps était de paix. Tu voyais tout sous un nouveau jour, sur le simple fait d'être aimé. Mais recevoir, c'est savoir donner, rester humble puis se sacrifier. Découvrir que la trahison débute par l'amour ou l'amitié. petit matin en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie.
Un petit peu d'amour, premier extrait du 39e album studio d'Eddie Mitchell, sorti prévu le 19 novembre.
Et rendez-vous à 9h, hein. Eddie Mitchell s'est confié à vous, Steven. Sa nouvelle chanson, son pote Johnny et son prochain album, ce sera notre ouverture de Laissez-vous tenter. On va retrouver nos grosses têtes et Laurent Ruquier dans un petit instant.
RTL Matin.
Notre rendez-vous avec la bonne humeur et le rire chaque après-midi entre 15h30 et 18h. Vous avez compris qu'il s'agit des grosses têtes et de leurs fameuses fake news.
Marine Le Pen vient de demander officiellement à ce que les deux immigrés que l'on voit nager vers la France en une de Paris Match soient refoulés à la frontière.
Bravo, Isabelle Mergo.
Eh bien, c'est officiel. Le grand remplacement a réellement commencé. Avant, on voyait Belmondo porter dans ses bras Ursula Andress sur la plage. Maintenant, on voit la meuf de Zemmour le surélever hors de l'eau quand il n'a plus pied.
Après Paris Match, c'est Voici qui va nous montrer la même photo en une du couple du moment, dans les bras l'un de l'autre, en maillot de bain. La photo sera la même, mais le titre sera « Éric Zemmour ».
Rendez-vous à 15h30, Louis Baudin. Oui. Notre météo du jour.
Bah, toujours très agréable. Hein. On me dit que c'est bien, qu'on aime bien cette situation-là. Bah, donc voilà, bah, elle va perdurer encore aujourd'hui. Alors avec quelques petits changements quand même dans le nord-ouest. On a en ce moment un peu plus de nuages, voire quelques petites bruines du côté de Saint-Brieuc, sur le Cotentin. Et puis à l'opposé, on a également quelques nuages près des Pyrénées. Cet après-midi, les quelques brouillards que l'on a encore ce matin vont vite disparaître pour laisser le soleil s'imposer partout. Quelques nuages près de la Manche, mais sans conséquence, hein, belle luminosité. Puis on voit le nuage un petit peu plus épais également dans le sud-ouest, là près de la Garonne, mais là aussi sans précipitation. Et côté température, c'est frais ce matin, souvent en dessous de 10 degrés dans le nord, mais cet après-midi, grande douceur, 21 à 24 degrés dans la moitié nord. Bah oui, on est au-dessus des moyennes, 24 à 28 degrés dans le sud. J'ai même trouvé 30 degrés à Ajaccio cet après-midi.
Eh bien, je vous félicite. On vous annonce de la douceur, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 24 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, il y a du nouveau. La SNCF ralentit. Fini le tout TGV, le train à grande vitesse et à gros tarifs. Retour à des trains moins rapides mais moins chers, low cost, low speed. Deux lignes seront lancées au printemps prochain sur Paris-Lyon et Paris-Nantes avec des trains corail repeints en rose, Arnaud Touche.
Oui, mais ne dites surtout pas train corail, mais bien Ouigo vitesse classique, même si dans les faits, ce seront bien les bons vieux trains corail des années 70 qui seront rénovés et qui circuleront deux fois par jour entre Paris et Lyon et trois fois par jour entre Paris et Nantes. Les tarifs iront de 10 à 30 euros maximum, y compris à la dernière minute, avec des suppléments pour les gros bagages ou encore les vélos. La SNCF souhaite en fait vendre ses billets 30% moins chers que ceux des TGV Ouigo Low Cost. Mais à ce prix-là, le Paris-Lyon se fera donc en 5 heures au lieu de 2. La compagnie ferroviaire veut contrer les Flixbus et autres cars de longue distance qui sont sur ce marché avec des prix déjà très bas. Elle souhaite aussi convaincre les Français de laisser leur voiture au garage et voyager pour pas cher entre deux villes. Cette nouvelle offre sera lancée au printemps prochain et en cas de succès, d'autres liaisons pourraient être lancées en 2024.
Arnaud Touche du service économie d'RTL.
Alors cette fois nous y sommes, la saison des débats politiques est officiellement ouverte.
Pas moins de deux émissions hier soir en prime time, Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin sur France 2 et le choc des extrêmes sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est attendu aujourd'hui à Budapest où se tient depuis hier un rassemblement de la droite identitaire. Il doit rencontrer le Premier ministre Viktor Orban dans la journée et il retrouvera Marion Maréchal Le Pen qui se réjouit de le voir participer à ce début de campagne.
Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez, c'est un homme intéressant pour le débat public. Par sa manière d'aborder les sujets, je pense qu'il va forcer le débat présidentiel à se faire aussi sur des sujets comme l'identité, sur des sujets comme la question de l'immigration, les sujets culturels, parce que sinon on aurait probablement ronronné autour du Covid jusqu'en avril prochain. Bon, on va dire que de ce point de vue-là, il va bousculer un petit peu tout le monde.
Marion Maréchal avec Julien Fautra, une pierre dans le jardin de sa tante, Marine Le Pen, car Éric Zemmour vient marcher sur ses plates-bandes. La riposte n'a pas tardé.
Je pense que Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires. Peut-être justement cet éloignement avec le terrain politique lui fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique. En ce qui me concerne, je ne le crois pas.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron reprend des couleurs. C'est l'un des enseignements du baromètre mensuel BVA Orange pour RTL. Sa popularité progresse fortement, plus 6% en un mois à 46% contre 53% d'opinion défavorable. Le niveau le plus bas en fait depuis la crise des Gilets jaunes. Autre enseignement, les Français ne peuvent plus se passer du pass sanitaire.
Si jamais le pass sanitaire était amené à être prolongé, on a une très large majorité de Français qui nous disent qu'ils sont favorables à cette idée, hein, 68%. Donc on voit bien que même si le pass sanitaire a suscité et suscite encore de la contestation chez certains, dans le grand public, pour une très grande majorité de Français, ça ne pose pas de soucis. Ils comprendraient finalement qu'on puisse le prolonger.
Christelle Craplet de l'Institut BVA avec Marie-Bénédicte Allaire. 400 millions d'euros pour le grand âge, annonce de Jean Castex hier. Le Premier ministre promet 10 000 postes supplémentaires dans les EHPAD d'ici 5 ans et plus de 200 millions pour financer les aides à domicile avec un tarif plancher pour les employés.
Il est 7h34, c'est une information RTL. Les casseurs d'antennes se seraient calmés.
Le nombre d'antennes relais 5G dégradées ces derniers mois a été quasiment divisé par deux par rapport à 2020, 63 contre 121. Le phénomène avait explosé pendant le premier confinement. Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, réclame une plus grande sévérité.
Pour chaque acte, c'est à chaque fois une plainte de déposer. Et d'ailleurs, l'enjeu pour nous est aussi que les peines encourues par les auteurs de ces actes soient aggravées, dégradées ou même incendier un pylône. C'est une peine maximum de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et nous souhaitons faire monter à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende les peines maximum pour les auteurs de ces actes de vandalisme.
Propos recueillis par Alice Moreno. Le constructeur des fusées Ariane s'apprête à supprimer 600 postes en France et en Allemagne d'ici fin 2022. Il s'agit de regagner en compétitivité, notamment face à la concurrence de l'américain SpaceX. L'Europe veut en finir avec ses chargeurs de portables qui encombrent nos tiroirs. Elle veut imposer un chargeur universel pour les mobiles, les tablettes, les ordinateurs ou les consoles. Ce serait plus écologique, plus économique aussi. Pour Guillaume Bensi, spécialiste télécom, ce ne sera pas si facile de mettre tous les fabricants d'accord, à commencer par Apple.
Je pense qu'il y a la volonté de s'adresser directement à Apple parce qu'en fait, Apple touche une royalty à chaque fois qu'un câble Apple est vendu de $2.50. Apple a vendu 217 millions d'iPhone sur l'année 2018. Fois les $2.50, c'est une somme qui est conséquente. Coup dur pour Apple.
Propos recueillis par Vincent Serrano, et si le texte est adopté, il devrait entrer en vigueur d'ici 2024. Va-t-on bientôt manquer de baskets ou de survêtements Nike ? L'équipementier est touché de plein fouet par les fermetures d'usines au Vietnam et en Indonésie et par les problèmes de transport liés à la pandémie de Covid. Il prévient que dans les prochains mois, certains de ses produits pourraient être indisponibles. On passe au foot. La Ligue prend des mesures après les nouvelles violences lors de la 7e journée de Ligue 1. Une tribune du Stade d'Angers est fermée et les déplacements des supporters marseillais sont suspendus. Sanctions provisoires. Les décisions définitives seront rendues le 6 octobre. On en reparle ce soir, sans doute dans RTL Foot de 20h à 22h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, on va parler d'une substance rare et mystérieuse, Yves, l'ambre gris.
L'ambre gris?
Oui.
Je ne sais même pas ce que c'est que l'ambre gris.
Eh bien, vous allez le découvrir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, dans un instant, François Langlais et la dépense publique française. Bon, on reste champion du monde, hein. Dommage que cela n'impacte pas positivement notre croissance, à nous dire notamment François.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langlaico avec vous François Langlais.
Bonjour à vous Yves et bonjour à tous.
Mais oui, c'est une bonne idée. Le projet de budget pour 2022 renoue avec les niveaux très élevés de dépenses publiques.
Oui, et là, pas possible d'accuser l'épidémie qui avait fait flamber ses dépenses publiques en 2020 et puis cette année. La France se prépare à dépenser l'année prochaine 55,6% de son PIB en dépenses publiques, sans équivalent dans le monde. Et quasiment sans précédent en France. Nous sommes au record de tous les temps et de tous les pays. En fait, on y est collé d'ailleurs, puisque ce chiffre est à peu près le même que quand Emmanuel Macron avait été élu. De ce point de vue, le quinquennat n'aura rien changé du tout.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce chiffre ?
Quand on additionne toutes les dépenses de l'État, des collectivités locales et de leurs satellites, de la Sécu et toutes les prestations sociales, retraite, allocation familiale, RSA, eh bien on arrive à 55,6% de la richesse créée en une année. En fait, c'est tout l'argent qui passe par les mains de l'État. provenant pour l'essentiel des impôts, mais aussi de l'emprunt, c'est-à-dire de l'endettement. C'est un indicateur de socialisation de l'économie. Oui. On est au plus haut de cet indicateur.
Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, François, c'est que la dépense publique augmente alors que les services publics se paupérisent. Moins d'hôpitaux, une justice sans moyens, des commissariats désargentés. Où passe l'argent ?
C'est vrai que c'est un paradoxe, hein, et c'est le principal problème français. En fait, une part croissante de la dépense publique est dévorée par la redistribution, au détriment des moyens de fonctionnement de l'État. On prend de plus en plus d'argent pour le redonner aux Français et de moins en moins pour les services publics, d'où la paupérisation que vous évoquez. Bon, il faut dire que la montée des allocations diverses, de la redistribution, justement, elle s'explique en partie par le vieillissement, hein, l'augmentation du nombre de retraités, c'est inévitable, mais aussi par l'extension de l'État-providence, et en particulier sous la présidence Macron, qui, contrairement à ce que disent ses critiques, n'a rien de libéral. C'est lui qui a fait l'augmentation de la prime d'activité, par exemple. Ou encore le revenu minimum pour les jeunes sans travail et sans formation qui est à venir. Ou encore l'extension du congé paternité.
Bon, est-ce qu'on peut vraiment s'alarmer du développement de l'État-providence ?
Non, sur le fond, ça réduit les inégalités. Mais je ne vais pas vous étonner, le problème, c'est qui paye ? Au bout du compte, celui qui paye, c'est le contribuable. Sous la forme d'impôts présents ou d'impôts futurs, oui. C'est-à-dire de dettes. Dépenses publiques et impôts, ce sont les deux faces de la même pièce. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Sauf à augmenter le déficit, c'est-à-dire la dette, c'est-à-dire les prélèvements futurs. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en écoutant les prétendants à l'élection présidentielle, oui. Parce qu'ils font assaut de propositions, la plupart du temps, sans dire où ils trouvent l'argent.
Y a-t-il un lien entre le niveau de dépenses publiques et la croissance ?
Pas du tout. Pas du tout. La France est au record de dépenses et pourtant sa croissance est plus faible que celle de l'Allemagne où le niveau des dépenses est à 45% du PIB. Bon, ça fait quand même 10 points de moins que nous. En fait, le sujet central, c'est la qualité de la dépense publique, évidemment. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir l'évaluer. Le seul lien avéré, c'est celui qui associe au niveau de dépenses publiques, au niveau d'impôts, et déficit important, la France en est un bon exemple.
Merci beaucoup pour cette leçon de choses sur nos déficits et nos dépenses publiques. On se retrouve dès lundi sur cette antenne
avec
et en
plaisir.
Direct, cher François Langlais. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il est 7h42, votre invité ce matin.
Je reçois Yves le plus français des Allemands, Daniel Cohn-Bendit, bien sûr, à deux jours d'une élection cruciale en Allemagne, il y a 7 mois, pile poil, du second tour de la présidentielle chez nous en France. Est-il toujours macroniste DCB, comme on dit, Daniel Cohn-Bendit.
A tout de suite avec Daniel Cohn-Bendit sur l'antenne RTL.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin l'ancienne eurodéputée écologiste Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL en direct de Francfort. Daniel Cohn-Bendit, on est à J-2 des élections législatives allemandes, des élections historiques, hein, puisqu'elles mettent fin à 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel. Alors on le sait, elle n'est pas de votre bord, mais vous diriez quoi à l'heure du bilan ? Bon, passable ou médiocre ?
D'un côté bon et d'un côté médiocre, les deux et en même temps, mon capitaine. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que d'un côté, Angela Merkel a su à certains moments rassembler la société allemande ou une grande partie de la société allemande. Elle l'a calmée et en même temps, Angela Merkel a anesthésié la société allemande, c'est-à-dire que elle refusait tout débat politique. Elle menait des débats, mais elle n'avait aucune vision. Donc c'est une, disons, 16 ans lénifiant avec des fulgurances. Sa fulgurance numéro 1, c'est la sortie du nucléaire après Fukushima. C'était pas préparé. C'était donc une réaction. À Fukushima. Mmh. La deuxième fulgurance, c'était la non-fermeture des frontières allemandes face à la vague, des migrés en 2015, non préparée.
Alors, visiblement, vous ne la regretterez pas plus que cela, si je vous entends bien, Daniel Cohn-Bendit. Dimanche, vous voterez pour qui, vous ? Les Verts ? C'est sûr ou pas ?
J'ai voté pour les Verts.
J'ai déjà voté par correspondance. D'accord. S'il faisait alliance avec la CD ou la droite allemande, est-ce que vous seriez choqué ou pas tant que ça, vous qui avez soutenu, je le rappelle, Emmanuel Macron en France en 2017 ?
Non, je ne serais pas choqué. D'ailleurs, dans le Land de Hesse où je vis, à Francfort, la région est gouverné par une alliance entre les Verts et les chrétiens démocrates. Vous savez, en Allemagne, il y a la proportionnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. La France entre les partis, c'est la haine, c'est le refus, c'est eux jamais. En Allemagne, c'est évidemment, il y a des grandes différences, mais tout le monde sait qu'on doit, à un certain moment, faire des compromis pour trouver des majorités capables de gouverner.
Dites-nous un petit mot du couple franco-allemand. Est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il y a une forme d'indifférence aujourd'hui entre nos deux pays ? On a l'impression que c'est un
peu... Non, il n'y a pas d'indifférence. Non, je crois que vous vous trompez. Mais ça, c'est typiquement en France, on est toujours au point mort ou au point haut. Il n'y a jamais des points normaux. La France regarde les résultats des élections allemandes. Les Allemands savent que si nous voulons, et nous le voyons avec ce que font les Américains aujourd'hui, avec les Russes, les Chinois, etc., notre souveraineté nationale dépend de notre capacité à structurer, à faire avancer l'Europe. Et tout le monde sait que l'Europe avance.
Donc si le coup franco-allemand va bien. Plutôt bien.
Il va. Il l'est.
Bon, alors, des Verts allemands aux Verts français, il n'y a qu'un pas ou un grand pas, parce qu'ils sont très différents. En France, le deuxième tour de la primaire verte, ça commence demain. Vous êtes clairement pro-Yannick Jadot, hein, vous l'avez dit dans cette compétition. Mais si c'est Sandrine Rousseau qui est choisie, eh bien du coup, vous voterez pour qui en avril prochain, vous, en France, Daniel Cohn-Bendit, au premier tour ?
Écoutez, je suis... On verra, je veux dire. Ça,
Macron, c'est possible ou pas ? Puisque vous l'avez soutenu au premier tour de la présidentielle, je le disais.
Macron, c'est possible. Yannick Jadot, c'est possible. Oui, les deux sont possibles.
Mais globalement, vous diriez qu'Emmanuel Macron est un bon président pour la France ?
Je dirais globalement que Emmanuel Macron est le meilleur président pour la France vu l'offre dans l'espace politique.
Alors, justement, il y a dans cet espace politique une multitude de candidatures pour la présidentielle à venir. Et il y a notamment, vous le savez, Éric Zemmour. Hier, il y a eu un débat entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous l'avez regardé, Daniel Cohn-Bendit ?
Ah non.
Non.
Ah non.
Ça vous intéressait
j'ai
pas.
J'ai d'autres choses à faire.
Alors pourquoi ?
Non, Ouais.
Qu'est-ce qu'Éric Zemmour
est-ce que
de quoi ?
Éric Zemmour ne m'intéresse pas. Tout ce qu'il dit, c'est complètement aberrant, c'est terrible, c'est horrible. Jean-Luc Mélenchon n'a aucune idée, moderne pour la France et intéressante. Donc je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à regarder un débat Mélenchon. Mais c'est moi.
Hein, oui, mais vous les renvoyez dos à dos, c'est ça que vous nous dites ? Vous les renvoyez dos à dos ?
Non, ils sont pas dos à dos. Les deux ne m'intéressent pas différemment.
Xavier Bertrand a dit d'Éric Zemmour qu'il était d'extrême droite. Et pour vous ?
C'est pas faux, il est raciste. Il est raciste et Jean-Luc Mélenchon est autoritaire. Éric Zemmour est rétrograde, autoritaire. Éric Zemmour, ça c'est peut-être... Et on a vu sur l'Europe, ils sont très d'accord d'ailleurs, Zemmour et Mélenchon. Si vous lisez Zemmour et écoutez Mélenchon, vous verrez qu'ils sont très d'accord.
Ils sont très d'accord, dites-vous. Ouais.
Sur l'Europe.
Ce ne sont pas deux populismes, comme certains le laissent à croire ou le disent, de gauche ou de droite.
C'est deux formes de populisme, c'est deux formes de simplificateurs, c'est deux simplificateurs, mais ils simplifient différemment.
Quand vous voyez notre sondage BVA, Daniel Cohn-Bendit, d'aujourd'hui, il montre que l'environnement arrive en quatrième position dans la liste des sujets prioritaires des Français, derrière notamment le pouvoir d'achat et la sécurité. Quatrième position, ça vous désole ?
Oui, ça prouve que tout le monde fait des erreurs. Vous savez, moi je veux bien le pouvoir d'achat, mais si vous voyez un peu ce qui s'est passé cet été, si vous voyez la dégradation climatique, le pouvoir d'achat dans une planète qui s'effondre, eh ben ça ne vous sert à rien. Donc le pouvoir d'achat c'est important, mais le défi, notre défi démocratique le plus important, c'est effectivement de lutter contre le réchauffement climatique. C'est évident, mais la difficulté démocratique, c'est le réchauffement climatique, il avance petit à petit. Et on en voit les résultats catastrophiques que dans 10 ans, 20 ans, ça commence aujourd'hui, ça a commencé hier. Et donc, nous sommes démocratiquement, en fait, des enfants.
Quand vous entendez Anne Hidalgo qui veut baisser la vitesse sur les routes et autoroutes, c'est une écologie qui vous plaît ou pas ?
Je trouve que c'est pas faux. Vous savez, ça, c'est pas simplement écologiquement, il faut... que nous limitions notre vitesse sur les autoroutes. Ça me paraît normal. Maintenant, on peut discuter 110, 130. J'ai trouvé aberrant le débat, cette réaction contre les 80 km sur certaines routes nationales. Enfin, je veux dire qu'on a, et c'est ça qui m'inquiète, c'est la difficulté d'avoir un débat rationnel quand on fait des propositions. C'est toujours des réactions épidermiques, irrationnelles.
Dernière question, vraiment, Daniel Cohn-Bendit, sur le foot. Vous, le passionné de foot, quand vous voyez toutes ces violences dans les stades récemment en France, qu'est-ce qu'on fait pour les endiguer? J'imagine que ça vous choque.
Mais quand je vois les violences des gilets jaunes, quand je vois certaines violences dans la police, quand je vois certaines violences contre les femmes, les féminicides et tout ça, eh bien je dis, et ces violences dans la société, on les retrouve aussi dans les terrains de foot, entre des hooligans dans les manifestations des gilets jaunes ou quelques d'autres manifestations, et les hooligans dans les stades, et les violences d'hommes hooligans contre les femmes. Vous avez la même structure qui existe dans toute la société.
On les prive de stades ?
On les prive de stades, mais surtout il faut s'attaquer justement à cette violence machiste qui gangrène la société.
Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Macron, c'est possible. Jadot, c'est possible. La réflexion ouverte, vous l'avez compris, de Daniel Cohn-Bendit sur la présidentielle française. Merci, Benjamin Sportouche. Votre entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Puis on vous dit à dimanche pour le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. À partir de midi, rendez-vous est pris.
À dimanche.
Dans un instant, un point météo avec Louis Baudin, le journal de 8h, mais juste auparavant, l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe? Je vous trouve chiffon, vous avez l'air déçu.
L'invité reste pas aujourd'hui? Oh dommage, on a tellement ri hier avec Christiane Taubira.
Oh oui, on peut pas rire comme ça tous les jours.
Je vous l'accorde.
Hier soir sur BFM TV, avait lieu le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez regardé?
Non Yves, car je ne cautionne pas ce que je considère être un avilissement du débat public où la radicalité l'emporte sur la raison. Mais non, je déconne. Bien sûr que j'ai regardé. J'avais mon saladier de pop-corn, des bières et des copains racistes de Fréjus qui étaient montés exprès et qui chantaient « Qui ne saute pas n'est pas raciste !» Et à l'arrivée, oh, déçu. Tout ça pour ça. Mon chouchou, mon Rico, qu'on appelle depuis ses photos en slope, là, petit corps malade. Et il était tout énervé, il parlait à tout le monde comme si c'était des journalistes de Paris Match. Mélenchon, lui, il n'a pas arrêté de prendre des notes pendant le débat. Quelqu'un aurait pu lui dire que c'était mieux de les prendre avant. Alors, maintenant, il y a le fact-checking. Vous avez vu, il y a les journalistes qui vérifient si Zemmour et Mélenchon, ils disent des trucs vrais. Oui. Alors, résultat, ils ont dit des conneries tous les deux. Alors, les fact-checkers, ils y allaient poliment. Ils disaient, par contre, sur la délinquance, l'immigration et l'économie, c'est pas les bons chiffres. Et les deux répondent, oui, mais on s'en fout, on dit ce qu'on veut, bande de nazes.
C'est exactement ça. Hein
depuis Didier Raoult, il y a une vraie mode de parler mal aux journalistes.
Bon, il y avait quand même un moment à retenir dans ce débat.
Oui, alors c'est authentique. Vers minuit 12, il y a Jean-Marie Le Pen en pyjama.
Qu'elle venait dire du bien d'Éric Zemmour, n'est-ce pas?
Donc du mal de sa fille Marine, donc par translation. Oui. Zemmour, hein, je le rappelle, qui est originaire d'Algérie. La pauvre Marine Le Pen se faire voler ses électeurs par un maghrébin, ça va pas la rendre moins raciste. Hein.
Bon, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité quand même, Philippe?
Oui, il y en a tout à fait. On avance tout doucement vers la fin des masques dans les écoles. Le masque qui gênait les enfants, mais on ne le dit pas assez. Le masque, c'était aussi l'égalité des chances devant les pédophiles pour les enfants moches.
Oh, je l'ai vu arriver, mon Dieu.
Oh, bon, oui, alors,
vous revenir aussi, Philippe, sur cette enquête. Vous voulez revenir sur cette enquête. Pour la première fois, une majorité de Français ne croient plus en Dieu et ils ne sont que 49% à croire.
Oui, j'ai combien de temps? J'ai 3 minutes, c'est ballot. J'en aurais eu 5, j'aurais pu vous répondre sur l'existence de Dieu et la vie après la mort, mais en 3, on va être juste. Ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus dur pour nos prêtres en ce moment. Chers paroissiens, notre paroisse peut accueillir 600 fidèles. Et vous n'êtes que 8 aujourd'hui. Dieu croit en vous, mais vous ne croyez plus en lui. Alors, bien sûr, il y a le Covid, le retour des talibans, le décès de Jean-Paul Belmondo, les sondages d'Éric Zemmour, la participation de l'âme dans Danse avec les stars et la météo pourrie à venir de Louis Baudin. Non. Et moi-même, en le disant, j'ai un peu envie de me foutre en l'air. Bon, c'est dur d'avoir la foi, comme disait Woody Allen, si Dieu existe.
J'espère qu'il a une bonne excuse.
Alors, le sondage va plus loin. Les jeunes croient encore moins en Dieu que les seigneurs. Comment faire pour changer l'image de Dieu et de l'Église ?
Très bonne question, Yves.
Ben oui.
Dieu doit-il poser en slip de bain en couverture de Paris Match avec sa conseillère en com ?
Non.
Pas sûr. En tout cas, l'Église, elle, elle a pensé à une campagne. Tu veux rencontrer les prêtres les plus chauds de ta région ? Si tu veux t'inscrire à la soirée « Ceci est mon corps », t'as un. Si tu veux assister aux journées des patrimoines, tape 2. Et enfin, si tu veux t'inscrire pour la visite complète de l'abbaye du Mont-Saint-Michou, tape 3. Alors, à bientôt dans les paroisses les plus hautes de ta région.
Quoi dire, moi. Alors, un mot de la crise entre la France et l'Australie. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont appelés. Vous pouvez nous révéler le contenu de la conversation ?
Mieux que ça, oui. J'ai même retrouvé un enregistrement de Joe Biden. Attention, il faut mettre la ceinture parce qu'il y a la direction, l'enregistrement. Joe Biden prévient Emmanuel Macron qu'il va lui piquer le contrat, mais il lui dit qu'il l'aime bien quand même. On écoute.
C'est un cul et tu jouiras. Confiant, il n'en pourra plus d'extase.
Oui, vous voyez qu'il y avait des indices. Il nous avait prévenus, mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il nous invite à dîner, qu'il nous offre des fleurs. Philippe, tu as péché. Tu as diffusé un extrait grossier de tenue de soirée. Pour ta pénitence, tu me feras huit Notre Père et tu liras le livre de Christiane Taubira.
Bon, ben on se retrouve lundi.
On se retrouve avec lundi plaisir. Avec
plaisir. Et d'ici là sur le
et on va à la messe dimanche.
Bien sûr, avec plaisir. On parle un peu de notre météo, cher Louis Bonnet.
Bah dans tous nos villages, aujourd'hui, on va regarder le soleil, hein, quel que soit le clocher, le soleil sera là. Alors ce matin, c'est vrai qu'on a quelques brumes, brouillards ici ou là, on a des nuages un peu plus denses près de la Manche, mais tout ça va se dissiper avant la mi-journée pour laisser le soleil s'imposer. On retiendra peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais là autour de la vallée de la Garonne ou encore près des Pyrénées, mais là aussi sans conséquence. Et du coup, les températures, bah, elles vont monter un petit peu cet après-midi, 21 à 24 degrés au moins dans la moitié nord, très agréable, 24 à 28 degrés dans le sud et 30 degrés même à Ajaccio.
Ça tient en deux mots, très agréable. Merci Louis Baudin, merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est très exactement 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Consulter son ophtalmo à distance, ce sera bientôt possible.
La télémédecine pour pallier le manque de professionnels. Les premiers tests ont lieu en ce moment. Reportage à découvrir dès le début de ce journal. La ministre des Sports prête à interdire les déplacements de supporters si l'urgence l'impose. Roxana Maracineanu était ce matin l'invitée d'RTL. L'extrême droite européenne s'est donné rendez-vous en Hongrie pendant deux jours. Éric Zemmour y sera reçu comme un quasi-chef d'État. Aujourd'hui, nous rejoindrons sur place notre envoyé spécial. Emmanuel Macron gagne 6 points de popularité en un mois dans notre baromètre RTL. Nous tenterons de comprendre pourquoi. Et puis le succès grandissant des camping-cars dopés par la crise sanitaire. Les ventes ont augmenté de 25% en un an.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
La dernière innovation de la SNCF. Bienvenue dans le futur.
Et on se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
3 mois, 6 mois, parfois même plus d'un an avant d'obtenir un rendez-vous chez son ophtalmo. Vous avez peut-être vous-même été confronté au problème avant d'abandonner, découragé et de repousser le rendez-vous à plus tard. C'est pour cette raison, parce que la population française vieillit, parce que les besoins en soins oculaires ont été multipliés par 3 en France ces dernières années, que l'assurance maladie a choisi d'expérimenter la consultation ophtalmologique à distance, en vidéo. C'est à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans les locaux d'un hôpital privé qui est tester le dispositif. Reportage signé Odile Pouget.
Vous allez pouvoir rentrer ici dans la pièce.
Dans un petit box, première téléconsultation pour Christine, 62 ans, venue pour un renouvellement de lunettes.
Est-ce que vous avez des maux de tête en fin de journée ?
Non. Face à la retraitée, un immense écran sur lequel vient d'apparaître le docteur Rita Guédira, installé à Lille, à une centaine de kilomètres de là. Pour ce diagnostic à distance, l'ophtalmo consulte d'abord attentivement chaque dossier.
Il a une pré-consultation auprès de l'orthoptiste et ensuite le dossier arrive sur ma salle d'attente informatiquement. Et moi, quand j'ouvre le dossier, ça que c'est exactement comme au cabinet.
Tension oculaire, fond d'œil, champ visuel.
OTRP.
Le plus gros, entre guillemets, de la consultation se passe avec nous.
Vous fixez bien la petite montgolfière, sans bouger la tête.
Alicia Lonque, orthoptiste.
Les délais chez les ophtalmos sont très longs. 6 mois, 1 an, hein, des fois, et encore, quand on appelle, bah, désolé, c'est déjà plein. J'ai une majorité de la population où ça fait des fois 4-5 ans qu'ils n'ont pas été chez l'ophtalmo.
Christine, elle, a obtenu son rendez-vous en 3 semaines et repart soulagée avec un compte-rendu et une ordonnance.
Au niveau du relationnel avec le médecin, ça s'est très bien passé parce que j'ai vu qu'elle avait quand même approfondi son diagnostic et qu'elle avait tous les documents en main.
Le système a ses limites. Certains examens pour détecter par exemple une cataracte ne peuvent être réalisés en téléconsultation. Un tiers des patients sont ainsi reconvoqués pour une visite en cabinet.
Un reportage signé Odile Pouget pour RTL.
Hier matin sur RTL, elle refusait d'appeler les Guyanais à se faire vacciner. Les propos de Christiane Taubira n'ont pas manqué de faire réagir.
Y compris dans son propre camp où certains ont jugé le silence de l'ancienne garde des Sceaux irresponsable alors que le département de la Guyane fait face à un taux de contamination particulièrement élevé et que seulement 20% de ses habitants sont totalement vaccinés. Christiane Taubira, qui a été finalement contrainte quelques heures plus tard de préciser qu'elle était elle-même vaccinée, et que les arguments anti-vax étaient, je cite, un tissu d'imbécilité. L'histoire ce matin d'un jeune ado de 12 ans qui est allé jusqu'à saisir la justice contre son père pour obtenir, lui, sa dose de vaccin. Ça se passe aux Pays-Bas. Racontez-nous, Émilie Beaujard.
Oui, l'adolescent veut pouvoir rester aux côtés de sa grand-mère qui souffre d'un cancer des poumons en phase terminale. De peur de lui transmettre le coronavirus, il décide donc de se faire vacciner. Aux Pays-Bas, les deux parents doivent donner leur accord pour qu'un enfant à partir de 12 ans soit vacciné. Sa mère accepte tout de suite, mais son père, anti-vaccin, refuse. Les parents sont divorcés, le dialogue est très compliqué, alors le jeune garçon fait appel à la justice. Après lecture des arguments des trois parties, le juge décide d'autoriser l'adolescent à se faire vacciner rapidement, sans attendre un éventuel recours du père. Le juge met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant dans cette affaire et renvoie le père aux données scientifiques en vigueur. Le jeune garçon pourra donc profiter de sa grand-mère très bientôt, juste le temps de faire ses deux doses.
Récit signé Émilie Beaujard. Jean Castex annonce 400 millions d'euros d'efforts supplémentaires pour l'aide aux personnes âgées, dont plus de la moitié consacrée aux interventions à domicile. Le maintien chez soi étant le premier objectif du gouvernement. Un tarif plancher de 22 euros par heure de prestation sera instauré partout en France, alors que la moitié des heures effectuées aujourd'hui sont rémunérées en dessous de ce niveau.
RTL, il est 8h04. La ministre des Sports était l'invitée d'RTL ce matin, Roxana Marie. C'est à nous, pressé d'agir pour faire cesser la violence dans les stades de foot.
Alors que la journée de championnat avant-hier a été une nouvelle fois marquée par des débordements de supporters, envahissements de terrain, bus caillassés, alors que plusieurs voix s'élèvent pour réclamer l'interdiction des déplacements de supporters, la ministre se dit prête à la mettre en place, même si cette décision risque de sonner comme une défaite.
Si c'est une mesure d'urgence qu'il faudra prendre, on la prendra. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que tout le monde se mette autour de la table et qu'on travaille ce sujet. Nous avions commencé à le faire avant la crise. Il faut qu'on continue parce que la solution, ce n'est pas de pénaliser tous les supporters à cause de personnes violentes et qui s'en prennent aux autres, y compris parfois aux joueurs.
Roxana Mara Sinéanou, la ministre des Sports, invitée ce matin de RTL. Des nouvelles à présent de cette famille afghane restée coincée à Kaboul après la chute des talibans et qui avait finalement pu rentrer à Lyon il y a quelques jours. Un couple, Chapour, sa femme et leurs trois enfants, dont RTL a suivi le retour en classe. La vie reprend, l'école aussi, dans le quartier de la Duchère. Reportage de Frédéric Perruche.
8h du matin, Sofiane, qui entre en CE2, a vite repris ses habitudes, direction l'école avec ses frères et sœurs, cartable sur le dos.
Bah, des cahiers, une trousse, une gourde.
Devant l'école, les trois enfants retrouvent leurs copains, ravis de les revoir.
Pour moi, c'était un peu triste, parce que je l'aimais bien, Sofiane, on jouait tous ensemble. Et là, quand il est revenu, j'étais content.
Ça t'avait manqué ?
Ouais.
Ça se voit, là, t'as les yeux tout pétillants.
Avec l'école, on est très content de voir nos copains s'amuser et travailler du français et du maths.
Mais t'aimes bien ?
Ouais.
Sonia et Chapour, eux aussi, ont retrouvé le sourire après des semaines d'angoisse à Kaboul.
Les enfants, ils sont contents, nous aussi. Tout le monde, il dit « Oh, Sonia, t'es rentrée, c'est bien. » Mon mari travaille, les enfants à l'école.
Et le sourire.
C'est ça, ouais.
Très, très content, très, très content, voilà, d'être là. Les enfants aussi, ils sont très, très contents d'aller à l'école, voir ses amis. Ils ont très envie d'y aller, voilà. À l'école, ça fait plaisir, exactement. La vie est belle, ici.
Le reportage de Frédéric Perruche.
Il est 8h07, un président qui retrouve son niveau de popularité du début de quinquennat, plus 6 points, la cote d'Emmanuel Macron s'envole, et on en parle dans un instant dans le journal de Dominique Tenza. Restez avec nous, bonne journée à tous.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est l'un des principaux enseignements de notre baromètre BVA Orange pour RTL. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est au beau fixe.
On retrouve Olivier Bost, éditorialiste politique RTL. Olivier, on parle de 6 points de plus en un mois, 46% d'opinion favorable. Emmanuel Macron retrouve là son niveau de début de quinquennat.
Oui, c'est comme si tout était oublié, effacé. Benalla, les gilets jaunes, la pagaille des retraites. Emmanuel Macron est au zénith et j'ai trois pistes d'explication. Sa place de chef de l'État dans les crises, évidemment. Et puis quand vous déversez des milliards d'euros, il faut bien que ça paye un peu aussi. Ensuite, la pauvreté, la médiocrité même de l'offre politique, où il n'y a plus que la radicalité qui se fait entendre. Emmanuel Macron est dans une position très enviable. À la même époque, Nicolas Sarkozy, en septembre 2011, était à 32% d'opinion positive. Et voulez-vous que je sois cruel, que je vous redonne le score de François Hollande à la même époque ? Je sens que vous êtes un peu méchant. 18% pour François Hollande, 46% pour Emmanuel Macron aujourd'hui.
Olivier, on ne retrouve pourtant pas cette cote de popularité dans les intentions de vote pour le président. Comment vous l'expliquez ?
C'est normal, Dominique. Il ne faut pas confondre le présent et le futur. Les opinions favorables, c'est une opinion instantanée sur le chef de l'État, sur son action. Une intention de vote, c'est une comparaison avec d'autres concurrents pour la suite de l'aventure. C'est pour ça qu'il y a un décalage de 20 points quand même entre les opinions favorables et les intentions de vote. Nous sommes à 7 mois tout pile du second tour de l'élection présidentielle. Aucun de ces chiffres ne restera figé.
Merci Olivier Bost. Autre enseignement de ce baromètre BVA Orange pour RTL sur la question du pass sanitaire. 2 Français sur 3 apparaissent favorables à sa prolongation, et ce quel que soit l'âge des personnes interrogées.
Et après son débat musclé face à Jean-Luc Mélenchon hier, Éric Zemmour est attendu lui en Hongrie ce vendredi.
À l'occasion d'un sommet organisé par le président Viktor Orban et regroupant tout ce que l'Europe compte de nationalistes, Marion Maréchal a pris la parole hier et le polémiste est donc attendu tout à l'heure. Accueil digne d'un dirigeant, il aura droit à un tête-à-tête avec Viktor Orban. On va prendre la direction de Budapest. C'est le choix ce matin de la brigade RTL. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour à tous.
Vous suivez ce sommet sur la démographie, ça c'est pour le nom officiel. De quoi parle-t-on exactement ?
Eh bien, on y défend une vision de la famille. La salle est dans la pénombre, tables rondes et discours. Devant un public acquis, les intervenants rappellent tous que la famille, c'est avec un père, c'est avec une mère, qu'elle doit être blanche, hétérosexuelle et surtout pas musulmane. Les migrants, présentés comme tous musulmans, accusés de détruire ce modèle familial. L'idée est d'imposer le thème de la famille comme une question politique. Écoutez par exemple Mike Pence.
We will have the courage of our convictions, and that as we put family first.
On a le courage de nos convictions, c'est la famille d'abord. C'était hier matin, l'ancien vice-président américain, époque Donald Trump. Chaque intervenant est introduit par le nombre d'enfants qu'il a eu, 3, 7, 10 enfants pour certains. L'économie doit être réfléchie à l'échelle de la famille, la société part de la famille. Interdire le divorce l'a même été évoqué plusieurs fois.
Et donc parmi les Français invités, on le disait, Marion Maréchal hier, Éric Zemmour attendu aujourd'hui, un peu comme 2 poissons dans l'eau.
Oui, Marion Maréchal m'a dit hier qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais avec beaucoup de choses tout de même, notamment sur l'immigration. Éric Zemmour, lui, n'a jamais caché une vision conservatrice de la famille. Il sera aujourd'hui en bonne compagnie. Un discours en début d'après-midi, après avoir été reçu en grande pompe ici par le Premier ministre Viktor Orban. Je vous renvoie d'ores et déjà au livre d'Éric Zemmour, page 14. Orban est présenté comme quelqu'un de fin. Orban, leader de ce camp ultra-conservateur européen et qui a interdit en Hongrie les publicités montrant des homosexuels, car il ou elle s'attaquerait à la famille ou en tout cas au modèle qu'il s'en fait.
La brigade RTL depuis Budapest en Hongrie ce matin. Merci beaucoup Julien Fautra. L'arrestation hier en Sardaigne de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 5 ans, et sa tentative de sécession de la province espagnole. Il doit être présenté aux juges aujourd'hui qui décideront de sa libération ou de son extradition vers l'Espagne, ce qui laisse planer le risque d'une nouvelle crise entre Madrid et Barcelone.
8h14, c'est un succès qui ne se dément pas et un marché en pleine croissance. Les vannes, les fourgons, les camping-cars n'ont jamais eu autant la cote.
Dès que vous pourrez reprendre la route, partez en camping-car.
Un sentiment de liberté, de confort, vanté par cette publicité l'an dernier. Plus 25% de ventes en un an, les chiffres sont là. Demain s'ouvrira au Bourget, près de Paris, la 55e édition du Salon des véhicules de loisirs. 10 000 visiteurs attendus. Christophe Bourreau.
Pour la première fois, le cap des 30 000 immatriculations de camping-cars a été dépassé en un an. C'est historique, malgré un prix moyen élevé, de 50 000 euros. Mais le désir de liberté des d'évasion l'emporte dans les intentions d'achat. C'est aussi pour 64% des utilisateurs un excellent moyen d'échapper aux contraintes sanitaires. Et dans ce marché, ce sont surtout les vannes aménagées qui font un carton, plus petit, plus facile à garer, que l'on peut utiliser tous les jours, mais aussi pour partir en week-end et en vacances. Résultat, une clientèle qui rajeunit et des ventes qui ont décollé de 50%. Revers de la médaille, les délais d'attente s'allongent, d'autant que, comme pour l'automobile, il y a pénurie des semi-conducteurs.
À Christophe Bourou.
À la pénurie des semi-conducteurs, on en parlera longtemps à mon avis. On se retrouve à 9h pour le point de l'actualité.
À tout à l'heure Yves.
Avec grand plaisir, à tout à l'heure. Dans un instant, nous surfons sur l'info avec Cyprien Signy.
Tchou-tchou le train.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Il est 8h17, Cyprien, vous surfez ce matin avec la toute dernière innovation de la SNCF.
Oui, alors que le monde évolue plus vite que jamais. Alors qu'aux États-Unis,
la société d'Elon Musk réussit le premier voyage orbital de l'histoire sans aucun astronaute professionnel à bord.
Elon Musk envoie des touristes dans l'espace. Au Japon,
603 km/h, record de vitesse battu pour un train à sustentation électromagnétique au Japon.
Des trains électromagnétiques dépassent les 600 à l'heure. Nous en France, on a... La SNCF. Et à la SNCF, même pas peur avec ce credo.
La SNCF, c'est toujours plus d'innovation.
Ah, du coup, on avait hâte de découvrir la dernière innovation Dolby Surround 2.0 des ingénieurs du futur. Et...
Oui, ce matin, on a annoncé... Ouigo vitesse classique.
Waouh ! Ouigo vitesse classique. Mais quel engin du futur révolutionnaire se cache derrière ce nom étrange? Eh bien, Christophe Fonichet, le patron de la SNCF Voyageurs, nous dévoile la bête.
Comme nous avions fait pour le Ouigo, on avait transformé un TGV en TGV Ouigo. Eh bien là, on a transformé un train corail en Ouigo vitesse classique.
Il est là le futur, à deux doigts de ressortir un bon vieux corail en fait. Pendant que l'Américain t'envoie les touristes dans l'espace, bah nous on ressort le corail. Enfin, il y a peut-être quand même du réaménagement.
Eh bien tout simplement, on a repris les voitures corail. On va garder les mêmes sièges qui bien sûr seront refaits. Oui, on va garder les mêmes voitures.
Ah bah non en fait, hein, même pas. Ah, quand même une nouveauté.
Ces voitures, elles vont être roses.
Ah bah ouais, on te prend un corail, on te le repeint en rose, et hop, le tour est joué.
SNCF, c'est possible.
Ah, ils sont forts quand même, hein, les SNCF. Hein. Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est que le temps de trajet, deux lignes, Paris-Nantes et Paris-Lyon. Alors aujourd'hui, c'est entre 2h et 2h30, mais grâce à notre train du futur, bah...
Paris-Nantes, ils vont être entre 3h30 et 4h15. Paris-Lyon, ça va être entre 4h45 et 5h15. Et
yes. Oui, en plus, c'est deux fois plus long.
SNCF, donnez votre indécité d'avance.
Formidable. Bon, après, on se moque gentiment, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, car finalement...
Des petits prix canons.
Alors, c'est des prix canons.
Bon, canons les prix, entre 10 et 30 euros, et surtout...
La nouveauté, c'est que tous les voyageurs d'un même train paieront, par exemple, 10 euros.
Et oui, le même prix pour tout le monde dans le même train. Et c'est peut-être ça, en fait, la vraie révolution à la SNCF.
Ah, éloge de la lenteur. Merci, Cyprien Signy. On vous retrouve sur RTL.fr pour le podcast de votre émission On défait le monde.
Absolument, à retrouver.
Dans un instant, nous serons avec Nicolas Théry, qui est le président de la Fédération bancaire française. C'est en quelque sorte le patron de nos banquiers. Nous allons parler de votre argent, du pouvoir d'achat. À tout de suite sur RTL.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23, bonjour Nicolas Théry.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes le patron du Crédit Mutuel, mais aussi désormais le président de la Fédération Bancaire de France. Et nous allons parler de notre argent à nous Français. Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois. Comment vont nos économies ?
Elles vont bien parce que le secteur bancaire est solide, il a joué tout son rôle et les banquiers ont joué tout leur rôle dans la crise. Alors cette épargne, elle est là.
Elle est conséquente. Hein.
Elle est conséquente, oui. Mais elle est inégalement répartie. Et je voudrais aussi dire ça, il y a eu une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique qui montre que notamment les classes populaires, les moins favorisées, ont eux tapé dans le bas de l'aine. Ça n'a pas été facile pour eux, le chômage partiel, la perte des heures supplémentaires. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde monte dans le train de la reprise. Donc on a beaucoup d'épargne, mais il faut veiller à ce que chacun soit accompagné. C'est ça le boulot des banquiers.
Alors ceux qui mettent qui ont la chance de pouvoir mettre des sous de côté, est-ce qu'ils sont prêts à faire évoluer leur épargne? On dit qu'on est vraiment des thésaurisateurs, nous les Français. Qu'est-ce qui peut nous faire changer?
Les Français sont assez rationnels et je trouve que...
Vous trouvez ça rationnel?
Mais en général, ils ont un projet de vie. Et donc, l'épargne, bah, c'est finalement définir son projet de vie. On veut sa résidence principale. Et je trouve que c'est important d'être accompagné pour ça. On veut un peu d'épargne de précaution. On prépare sa retraite. On prépare les études des enfants. Et en général, les rendez-vous épargne des banquiers, eh bien, ça permet d'aborder tous les aspects de la vie. Et moi, je crois que la beauté de ce métier-là, c'est d'être dans ce conseil-là.
Une des questions au cœur de l'actualité concerne le taux du livret A, 0,5% actuellement. Faut-il, selon vous, relever le taux du livret d'épargne préféré des Français ?
Ben, pour l'instant, c'était un taux de rémunération et c'est un taux de rémunération qui est conforme à ce qui existe sur le marché compte tenu des taux d'intérêt. Vous savez, ils sont à zéro. Oui. Alors, il y a une petite résurgence d'inflation. Est-ce qu'elle est temporaire ou pas ? La décision, ça sera celle du ministre des Finances, 1er février.
Cette inflation, elle peut fragiliser nos banques ?
Non.
Si elle revient ?
Non. Parce que pour l'instant, il faut d'abord porter le bon diagnostic. Le vrai problème, c'est la reprise, c'est les goulots d'étranglement. On manque de bois pour la construction, on manque de puces pour la construction automobile, etc. Et donc, il y a des tensions et des manques d'offres. Et donc, il faut bien voir si c'est temporaire, juste ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, ou si c'est vraiment une remontée des prix.
Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que ça reste à 0,5% le livret A, vous ?
Pour l'instant, jusqu'au 1er février, il est à 0,5%. J'allais dire, je fais confiance au gouvernement pour prendre la bonne décision. La réalité...
Donnez-moi votre sentiment.
Mon sentiment, c'est que à 0,5%, c'est effectivement un bon taux de rémunération et qu'il faut allouer son épargne un peu sur le livret A, sur la résidence principale, sur l'épargne à long terme. Il faut un peu de tout pour avoir une épargne réussie.
C'est quoi le meilleur placement aujourd'hui ? Même si vous venez de me dire qu'il faut un peu de tout pour un placement réussi.
Ah bah le placement, c'est celui qui correspond à votre projet de vie, c'est-à-dire votre âge, ce que vous voulez faire. Et donc, mon conseil, c'est par exemple une résidence principale, une épargne de précaution en cas de coup dur, et effectivement, une part d'épargne un peu plus risquée, un peu à long terme. Fondamentalement, l'épargne, c'est juste du temps. Vous décidez si vous la voulez à tout instant, ou si vous êtes prêt à prendre un risque sur 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Et donc mon conseil, c'est surtout de bien définir votre rapport au temps.
Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'immobilier est un bon placement ? Vous venez de nous dire que c'était quelque chose de rassurant et de structurant dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'une famille, j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est ce qu'on peut appeler un bon placement ?
C'est un bon placement s'il correspond, d'abord si vous l'occupez, et s'il correspond à votre projet de vie. C'est-à-dire que c'est un placement, c'est pas un placement spéculatif, l'immobilier.
D'accord.
C'est pas je rentre, je sors. Ça doit avoir une rationalité.
C'est un engagement.
C'est un engagement et c'est quelque chose dans lequel vous devez être bien. Donc moi, je crois que dans une économie parfois un peu dans la folie spéculative du Bitcoin et des folies comme ça, il faut revenir à des choses très rationnelles. On a tous besoin à la fois de sécurité, de bien-être et d'anticipation du futur. Et le métier de la banque et les 350 000 conseillers bancaires, ils font ça.
Alors, puisqu'on vous tient, l'accès au crédit semble s'être durci depuis la pandémie. Est-ce que vous confirmez que nos banques sont beaucoup plus regardantes sur les conditions de prêt ?
Alors, elles sont regardantes, elles sont pas regardantes pour leur plaisir, hein. C'est juste pour que les gens puissent rembourser. C'est-à-dire que rien n'est pire que de mettre quelqu'un, de le surendetter et de lui créer des difficultés. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être attentif.
Votre métier n'est pas de nous pousser à faire des bêtises, c'est ce que vous êtes en train de me dire ?
Exactement. Mais moi, je pense que le métier du banquier, son premier métier, c'est le conseil. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les prêts augmentent. Quand on regarde les prêts aux entreprises, les prêts aux particuliers, les prêts immobiliers, ça augmente. Donc, on nous dit « oulala, ça s'est durci ». Moi, je ne vois pas le durcissement. La réalité, c'est que les gens qui ont besoin d'un prêt le trouvent dans des conditions correctes.
Inclus les jeunes, les primo-accédants ?
Oui, oui, clairement. Et honnêtement, nous vérifions par exemple à ne pas prêter au-delà de 25 ans, ce qui me paraît là aussi raisonnable. Donc, pas de difficultés particulières.
Autre question, l'endettement du pays, on l'évoquait ce matin avec François Langlais, est-il une inquiétude pour vous ? La pandémie nous a fait dépenser, quoi qu'il en coûte aussi, d'une certaine façon. Hein.
Alors j'ai une petite nuance avec François Langlais, c'est que pour moi l'endettement...
Vous avez le droit d'avoir des grosses nuances. Hein.
Ah bah alors j'en ai une grosse, c'est que pour moi l'endettement dépend de l'investissement qu'on finance. Regardez, tout à l'heure, on disait un emprunt immobilier, bah, ça dépend de la qualité du bien, s'il vous plaît, etc. Et bah, pour l'endettement public, c'est pareil. Si vous investissez dans le service public, si vous investissez dans l'efficacité collective, c'est rentable. Et je voudrais avoir une leçon de la crise. Dans cette crise-là, on a tous fait le job, on l'a bien fait, il y avait une partition commune, chacun a joué son rôle, le gouvernement, les banques, les entreprises, les syndicats. Et le résultat, c'est qu'on a été efficace. Et je pense que avoir des services publics qui fonctionnent, avoir des entreprises qui fonctionnent, c'est un bon investissement collectif. Et ça, c'est une notion que je voudrais retenir de cette crise.
Et vous êtes sûr de ne pas avoir distribué des soutiens aux entreprises qui ne le méritaient pas ?
Aujourd'hui, elles le remboursent. Donc on a été efficace. C'est vrai que dans la crise, en 10 jours, on a mis la moissonneuse-batteuse. Voilà, tout le monde a été couvert, 700 000. Et aujourd'hui, on revient à un métier de vigneron patient. On soigne les pieds de vigne, on accompagne de manière personnalisée et ça marche bien.
Nos banques sont dans une bonne situation actuellement. On évoque des instabilités internationales, des craintes de chute de maisons. En ce moment, la situation en Chine inquiète beaucoup. Enfin voilà. Est-ce que vous pouvez dire il y a une vraie stabilité de l'univers bancaire français? On vit dans un monde totalement où tout le monde circule, en particulier l'argent, et plus vite qu'ailleurs.
Mais regardez, on a des banques solides. J'aime beaucoup dire que la banque, c'est d'abord une industrie. C'est une très belle industrie, c'est une des plus belles industries françaises. Et on a des banques solides qui ont joué tout leur rôle, qui méritent d'être soutenues, qui accompagnent leurs clients. Et aujourd'hui, j'ai un souhait, parce qu'il y a tout un débat international sur les règles prudentielles des banques. Et bien, j'ai juste une recommandation, c'est qu'on n'en fasse pas trop. C'est-à-dire qu'on soit à la fois solide, qu'on fasse du financement et qu'on soutienne les banques françaises. C'est un superbe secteur. Après tout, on défend Airbus contre Boeing. Et bien, les banques françaises méritent d'être défendues et je sais que Bruno Le Maire le fait.
C'est un superbe secteur. Mais je suis stupéfait moi-même du nombre de fermetures d'agences que je vois dans les rues. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le réseau bancaire est en train de diminuer et qu'en gros, cette proximité qui devait être la vôtre est en train de reculer à vitesse grand V, sous pression par ailleurs de nouveaux moyens qui fonctionnent. Je ne vais pas vous dire le contraire.
Alors, on a 36 000 agences. On a autant d'agences que de communes en France. Donc, effectivement, il y a une réduction régulière, mais on n'a pas de désert d'agences bancaires. 99% des Français sont à moins de 15 minutes d'un point où ils peuvent avoir de l'argent. Donc ça, c'est une réalité de service. Et moi, je crois que la banque française, elle est relationnelle et territoriale. Alors aujourd'hui, une agence, c'est à la fois un centre téléphonique, c'est un centre numérique, c'est un centre d'accueil physique. Elles évoluent, ces agences.
Mais je pense que... on a surtout besoin de parler à quelqu'un et en plus, dans une société qui vieillit.
Mais dans le consensus des banques françaises, c'est de maintenir une présence territoriale forte. Alors après, chaque entreprise a un peu ses préférences. Mais quand je regarde, oui, il y a une réduction, mais elle n'est pas colossale.
Une réponse courte, le Bitcoin, les monnaies virtuelles, est-ce que ça vous inquiète ?
Oui, si les gens y mettent leur épargne. Moi, je crois aux choses rationnelles, aux choses raisonnables. Et honnêtement, si j'étais eux, je n'irais pas là-dessus.
Mais donc, vous n'irez jamais là-dessus.
Moi, personnellement.
Et les banques n'iront pas sans vous, en tout cas. Notre fédération française.
En tout cas, pour ce qui concerne la banque que je préside, le Crédit Mutuel, la recommandation est n'y allez pas.
J'ai bien compris que vous vous engagez pour la vôtre, mais pas pour celle de vos amis et concurrents. Merci beaucoup, Nicolas Théry. Vous
Merci,
êtes le patron du Crédit Mutuel et le président donc désormais de notre fédération bancaire de France. Bonne journée à vous, bon travail. Notre météo à 7 jours, Louis Baudin.
Oui, on va voir ce week-end. Malheureusement, les conditions vont légèrement se dégrader. Mais enfin, ça va se faire très progressivement. Demain, pour l'essentiel de la journée, on aura encore un temps sec, ensoleillé. Quelques nuages ici ou là sans grande conséquence. Et surtout une grande douceur. Demain, les températures vont encore grimper. On pourrait franchir les 25 ou les atteindre au moins dans la moitié nord.
Je et frétille.
4 30 degrés dans le sud, oui. Donc, journée très douce. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, fin d'après-midi, on pourrait avoir les premières averses. Alors, dans le sud-ouest, entre les Pyrénées, le Massif central. Et puis, ça progressera vers les régions du nord-est en toute fin de journée, en cours de soirée. Et d'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche, les averses orageuses seront peut-être un peu plus fréquentes dans l'est, ce qui sera le cas pour la journée de dimanche. Dans l'ouest, on retrouvera déjà un temps sec et ensoleillé. En revanche, on aura peut-être cette fois-ci ces averses, parfois accompagnées d'orages entre la Méditerranée et le nord-est. Mais là aussi, ça ne sera pas systématique, ça ne durera pas toute la journée. Et puis, les températures resteront très douces tout au long du week-end. Les températures s'étaleront entre 24 et 30 degrés du nord au sud. Donc, plutôt une impression agréable. Lundi, on va retrouver du soleil dans le sud, mais quelques averses dans la moitié nord. Mardi, petite accalmie. Et ça se confirme. En milieu de semaine prochaine, les températures vont baisser, le vent va revenir. On disait les feuilles vont tomber. Enfin bref, ça sentira les premières journées d'automne avec un air un peu plus frais. Mais enfin, normal. Rien de plus normal. Il faut accepter les choses. Et c'est plutôt de bon augure.
Vous avez fait allemand seconde langue, vous, au lycée ?
Oui, j'ai fait.
Oui, comment dire ? Non, mais comment dire ?
J'ai totalement oublié. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Bon, bah, écoutez, dans un instant, on part en Allemagne pour dire Auf Wiedersehen à Madame Merkel. Merci.
RTL, revivre ensemble. RTL autour du monde.
Et RTL autour du monde prend évidemment ce matin la direction de l'Allemagne où les élections législatives se déroulent ce dimanche. Angela Merkel va quitter le pouvoir après 16 ans de chancellerie. Une longévité exceptionnelle, ce qui fait que les jeunes Allemands n'ont connu qu'elle. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes allé à la rencontre de cette génération Merkel, ces jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui ont du mal à imaginer la vie sans elle.
Moi par exemple, je ne peux pas imaginer d'avoir un chancelier, un homme, c'est trop bizarre. C'est notre maman en Allemagne.
Marilyn a 24 ans.
aujourd'hui, cette étudiante de l'université de Fribourg résume bien le poids qu'a pris Angela Merkel pour toute une génération. Sa camarade Alina avait 6 ans, elle habitait Leipzig, quand en 2005, Angela Merkel a pris le pouvoir.
Je dis toujours à ma famille que je connais que Angela Merkel. Vraiment, j'ai aucun mémoire des personnes avant. Donc, pour moi, c'était toujours Merkel. Ouais. Pour moi, je sais pas, c'était toujours un modèle. Je pense qu'elle a bien montré que c'est possible d'une femme, pour une femme, de gouverner un pays.
Et finalement, Angela Merkel a ouvert les yeux à cette génération en montrant que tout était possible.
Eh bien, le moment clé pour cette génération, c'est 2015, quand Angela Merkel prend la décision d'accueillir les réfugiés avec cette phrase « Wir schaffen das, on va y arriver ». Marilyn s'en souvient encore.
Elle était critiquée parce qu'elle a pris beaucoup de réfugiés. Moi, j'ai travaillé en ce moment pour une organisation et moi, j'étais fière d'Allemagne et aussi d'elle qu'elle a décidé de faire ça, même s'il y avait beaucoup de critiques.
En revanche, les reproches de cette jeune génération tournent plutôt autour de l'environnement. Angela Merkel n'a pas su prendre le virage à temps pour Pauline, 23 ans.
Oui, elle a arrêté le nucléaire. Ça aussi, c'était une décision très... un peu émotionnelle, c'était après Fukushima. Ça, pour moi, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec Merkel. Mais oui, malgré tout, elle n'a pas du tout fait assez pour l'écologie. On a toujours le charbon. Et il y a peu de temps, elle a dit oui, j'avoue, j'ai pas fait assez. J'en suis désolée.
Mais malgré ces critiques, c'est vraiment avec une pointe de nostalgie que ces jeunes étudiantes de la Merkel Generation vont voir partir la chancelière dimanche.
RTL Autour du Monde en Allemagne. Merci beaucoup, Yannick Collant.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
8h38, comme le temps passe, on vous retrouve Isabelle Choquet avec grand plaisir. Et ce matin, gros plan sur ce qu'on appelle l'or flottant,
absolument.
Autrement dit l'ambre gris.
Oui.
Expliquez-nous tout ça.
Et c'est une substance ancestrale, mais toujours mystérieuse et très rare, car on ne la trouve que par hasard. Elle est produite par les cachalots, mais pas tous les cachalots. Seulement un cachalot sur 100. C'est un magazine canadien qui nous en parle dans Courrier International. C'est un joyau, Yves, mais en vrai, ça ne se ressemble à rien. Ou plutôt si, à un bête caillou. C'est blanc, avec des taches brunes et grises. Ce caillou sent le musc, avec, paraît-il, des notes de tabac et des tonalités marines. Ça, c'est quand il est sec. Frais, autant le dire tout net, ça pue, ça sent le caca, comme disent les enfants, mais au sens propre, car même si on l'appelle souvent vomi de baleine, en fait, l'ambre gris se forme dans l'intestin des grands cachalots. C'est un peu burk,
oui.
Pas très glamour, et pourtant, non. Depuis des siècles, l'ambre gris est une substance très recherchée dans l'industrie du parfum, parce qu'il fixe les senteurs et il rehausse certaines essences volatiles. On lui prête aussi des vertus aphrodisiaques, qui ont été confirmées d'ailleurs par des études sur les rats. Cet or flottant, il s'est parfois vendu 2 fois plus cher que l'or. Aujourd'hui, le cours tourne autour de 25 dollars le gramme, comme le platine. Un rognon de la taille d'une balle de tennis peut rapporter plusieurs milliers de dollars et on trouve parfois des blocs de la taille d'un homme, ça c'est jackpot. Depuis les années 50, on sait fabriquer une version de synthèse, mais l'ambre gris, le vrai, continue de fasciner parce que ses qualités sont inimitables et par son mystère, justement.
Bah oui.
D'abord, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on sait qu'il vient des cachalots. On a cru que c'était de la résine d'arbre, de l'écume solidifiée. Au XIIe siècle, même les Chinois pensaient qu'il s'agissait de bave de dragon séché. On ne savait pas très bien ce que c'était, mais on s'en servait pour tout, comme médicament, comme gris-gris contre la peste, et même en cuisine, dans les toutes premières crèmes glacées, ou aujourd'hui encore, dans certains cocktails servis sous le manteau. Le mystère de l'ambre gris a aussi contribué à façonner des empires. On dit que l'Angleterre a colonisé les Bermudes, pardon, car on lui avait signalé des gisements d'ambre gris, finalement très exagérés. Comment se forme l'ambre gris? Ça aussi, c'est mystérieux. Oui. La théorie la plus acceptée, c'est qu'il vient d'une blessure. Le cachalot avale des becs de calamars qui finissent par bloquer son intestin. Ça forme un bouchon, les sécrétions s'accumulent autour et c'est par cette déchirure que l'ambre finit par être expulsée. En fait, personne ne cherche vraiment plus loin parce que depuis la création de l'ambre synthétique, l'ambre gris, c'est surtout une curiosité biologique et chimique. Avec tout ça, bien sûr, le marché n'est pas très classique. L'or flottant ne s'exploite pas, il ne se chasse pas, il se trouve, par chance, sur toutes les côtes fréquentées par les cachalots, c'est-à-dire à peu près partout. Récemment, c'est un groupe de pêcheurs du Yémen qui a trouvé un énorme bloc dans une carcasse de cachalot, un trésor $1,5 million. Des légions de chasseurs pro ou amateurs se mettent chaque année sur la piste. Certains dressent des chiens, comme les chameliers du Xe siècle qui apprenaient à leurs animaux à s'agenouiller quand ils le flairaient. Mais bon, le plus souvent, ils font chou blanc, c'est peine perdus. Et on ne compte plus les gogos qui se sont fait fourguer des cailloux, du caoutchouc, des éponges de mer et pour les moins chanceux, des crottes de chien. Oui. En fait, le marché est contrôlé par une poignée de marchands chevronnés. Pour eux, l'ambre gris n'est souvent qu'un à côté, très rémunérateur, mais totalement imprévisible. Et c'est bien ce qui fait son charme. Les secrets de l'ambre gris, grande enquête à lire dans Courrier International cette
vous
semaine.
Vous êtes passionné une fois de plus. On se retrouve lundi avec grand plaisir.
Bon week-end.
Merci.
Lundi.
RTL, vous êtes comme ça.
C'est formidable. Hein. Direction les sommets enneigés du Mont Blanc ce matin avec une preuve d'amitié tout à fait exceptionnelle. Quatre amis, coureurs de fond, ont décidé sur un coup de tête d'emmener l'un des leurs, atteint d'une grave maladie dégénérative des muscles, à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Une course extrême de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Elle a eu lieu fin août. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré deux des membres de cette équipe, soudés comme une vraie famille.
Oui, c'est une histoire d'amitié pure et dure, pure comme les neiges éternelles du plus haut sommet français, et dure parce qu'il a fallu courir, porter, pousser leur ami pendant plus de 50 heures. Sébastien Nguyen et Laurent Darret se sont lancés ce défi complètement fou pour faire rêver de nouveau Jean-Paul, leur ami depuis 7 ans, avec qui ils partagent cette passion pour les courses à pied extrêmes et qui brutalement s'est retrouvé en fauteuil roulant il y a quelques mois, atteint de la maladie de Charcot.
Bah Jean-Paul, c'est quelqu'un d'adorable, il est discret, d'une gentillesse extrême.
Toujours positif.
Combattant. Je l'apprends comme ça, je m'en rappelle même, j'étais en train de courir. Je me suis effondré en larmes, à vrai dire. Voilà. C'est un peu dur d'en parler parce qu'à chaque fois, je me remémore ce moment et ça me fait une boule.
Alors, racontez-moi cette aventure justement.
C'est 170 km et 10 000 de dénivelé positif. Une idée de fou.
Allez,
on s'en fout, on fonce.
Allez, courage les gars!
Pour porter Jean-Paul, une joëlette, une sorte de chaise à porteur avec une seule roue, quatre potes bien sûr et une trentaine de volontaires, des amis d'amis qui se sont relayés le jour, la nuit, dans les pentes et dans le froid pour le pousser aussi.
Dans une grosse ascension comme au Grand Col Ferré, on prend plus de 1000 mètres de dénivelé sur 5 km et il y a des périodes, des passages où on doit monter à 1-2 km heure. On est 8, 9, voire 10 à soulever, tirer. Et ça a duré 3-4 heures l'ascension. C'est pas simple, voilà. Donc il y a le poids de Jean-Paul plus le poids de la joëlette. Je pense qu'on est bien aux alentours de 100 kg.
Alors l'idée, quelque peu obsessionnelle, c'est que Jean-Paul passe la ligne d'arrivée debout avec sa petite fille.
Bravo les gars.
Super. Allez. Super.
Il a bien sûr réussi son pari, lui le grand sportif terrassé par une maladie orpheline.
Ah mais souvenir magnifique, souvenir de passer la ligne d'arrivée, il fallait pousser, tirer la jouette. Le déploiement d'efforts qu'ils ont dû mettre pour avancer au moment où ils l'ont fait, je pense qu'ils n'en ont pas été trop conscients en fait.
La maladie de Charcot ne fait pas de quartier. Elle bloque les muscles peu à peu, mais pas les ambitions de Jean-Paul qui se voit encore gravir le mont Ventoux dans les prochaines semaines, accompagné de ses amis, bien entendu.
Merci beaucoup Hugo Hamelin. Quand l'amitié donne des ailes, on retrouve votre reportage sur RTL.fr. Et dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. Bonne matinée sur RTL.
À tout moment, écoutez RTL sur votre enceinte connectée en disant
« Alexa, lance RTL »
ou
« Ok Google, lance le live RTL ».
RTL,
partout,
tout le temps.
RTL Matin,
avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Mais ouais, c'est ça, allez-y avec vos propos mensongers sur ma personne, dictés par Macron.
mais j'ai encore rien dit, si ce n'est bonjour.
Bonjour, bah oui, mais ouais. Mais vous gênez pas, accusez-moi d'être le suppôt de la prétendue violence du peuple auquel vous et votre caste de nantis, vous avez confisqué tous les droits.
J'ai jamais dit ça, moi.
Mais ouais, déchaînez-vous contre moi, lâchez les chiens rageux de votre police politique aux ordres du pouvoir néo-fasciste.
Bon, vous ne croyez pas qu'à l'heure où le peuple, avec vous d'ailleurs, se rassemble comme la semaine dernière, il faudrait plutôt appeler au calme?
Qui t'a dit que j'étais pas calme? Je suis très calme. Le premier qui dit que je suis pas calme et pas pacifique, je le fais guillotiner en place de grève.
Mais enfin, la place de grève n'existe plus. Hein.
Ah ouais, ça vous fait mal hein, ce mot-là, hein, la grève. Hein,
oui.
À vous les suppôts du grand capital.
Et la guillotine non plus d'ailleurs n'existe plus. Bon, je crois que le dialogue n'est pas
non,
possible.
Pas très aisé.
Au revoir Jean-Luc Mélenchon. Je vous souhaite une très bonne journée.
C'est ça, oui. Ajoutez l'insulte à l'infamie, voilà, en me souhaitant une mort lente dans d'atroces souffrances. Ah,
elle est la voix de la nuit sur RTL. La célèbre psychologue Caroline Dublanche recueille tous les jours les confidences des auditeurs en détresse dans Parlons-nous.
Parlons-nous.
Bonsoir. oui. C'est Caroline
Madame.
Dublange. Bonjour Yves. Qui est en ligne?
Salut, c'est Philippe Martinez de la CGT qui vous cause.
Je vous écoute, Philippe. Que se passe-t-il?
Bon, ce qui se passe, c'est que l'autre jour, que j'étais à la pompe à prendre de l'essence. Il y a des gens qui faisaient la queue et qui m'ont reconnu comme quoi j'étais Monsieur Martinez de la CGT.
Mmh. Parlez-nous de cette rencontre importante avec des gens. Philippe, laissez-moi parler.
Ah ouais. Ouais, je cause beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'était des vrais gens qui travaillaient et tout et qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait plus d'essence.
Et qu'avez-vous ressenti, Philippe?
Ben, que j'ai eu l'impression qu'ils ne m'aimaient pas.
Il n'est peut-être pas trop tard pour sauver votre relation avec les gens, Philippe. Vous pourriez faire un geste dans leur direction.
Mais j'ai fait un geste. Je leur ai donné le calendrier des grèves et puis une casquette de la CGT.
Voilà. Je suis sûre que vous avez su toucher leur cœur.
Bah ouais, par contre, ils n'ont pas voulu pousser ma bagnole que j'avais plus d'essence dedans.
Parmi les domaines les plus impactés par la crise sanitaire en cours, il y a bien entendu le secteur culturel. Nous recevons la ministre de la Culture. Bonjour Roselyne Bachelot.
Oh là 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 là.
Ouh là là.
Parlez moins fort.
Ah pardon.
Si on sait que je suis là, on va encore me coller un dossier épineux sur le dos. Et moi là, je suis au bout du rouleau.
Mais c'est vrai que vous avez l'air un peu fatiguée, oui. Madame Bachelot. C'est votre ministère qui vous épuise.
Mais oui. Quand j'ai accepté ce job au mois de juillet, l'épidémie était passé. Je me suis dit que ce serait tranquille, comme Planck, piquer un petit roupillon à l'opéra, distribuer quelques médailles, inaugurer des petits fours avec des petits fours, hein, et surtout rencontrer des acteurs.
Voilà. Et ce n'est pas le cas.
Mais non. Les seuls acteurs que je rencontre, ce sont les acteurs de la culture qui veulent me taper de l'argent. Des libraires à col roulé qui sentent la pipe, des punks à chiens cracheurs de feu, des intermittents abonnés péruviens, des comédiennes engagées qui postillonnent, des animateurs socioculturels qui listent les ramas, des cinéastes sans spectateurs.
Oh, oui, ouais, bah, merci, c'est pas la peine de nous faire toute la liste des acteurs de la culture. Oui, c'est pas comme vous dites. Il y a quand même bien quelques célébrités qu'il doit être agréable de rencontrer dans votre fonction, non?
Mais non.
Ah,
la dernière célébrité qui est venue me voir, c'est Elsa Zilberstein,
oui.
Qui voulait que je la pistonne pour un petit rôle dans Les Reines du Shopping sur M6. Parlez d'un truc.
Mais une émission que vous connaissez bien, puisque vous y avez participé, n'est-ce pas?
Mais oui. C'était l'époque où je pouvais m'habiller comme je voulais. En legging léopard, en sarienne fluo, en sarouel 240 litres. Qu'est-ce qu'on rigolait? Voyez-vous, si j'avais su, j'aurais jamais accepté le ministère de la Culture et je serais resté aux grosses têtes.
Bien. La crise sanitaire que nous traversons a eu pour effet de générer une accumulation d'épargne exceptionnelle. On en parle avec notre spécialiste économique, François Langlais. Faut-il se réjouir ou se plaindre de toute cette épargne, François?
Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Le pour, c'est que quand on épargne, on ne dépense pas. Donc, ça fait des économies. Mais le contre, c'est que quand on économise, ça fait des faillites, donc des dettes. Donc, au bout du compte, des dépenses. En résumé, plus on économise, plus on dépense. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du CIF.
Le CIF. De quoi s'agit-il, François Langlais?
Le syndrome inflationniste français. Ah. Alors, que faire avec le CIF? Il y a plusieurs écoles de pensée. Certains veulent élargir le CIF, quoi qu'il en coûte, quitte à creuser le trou. Mais d'autres recommandent de raser le CIF. Vous le voyez, les spécialistes ne sont pas d'accord.
Bon, on ne va pas trancher ce matin. Non. Revenons à cette épargne accumulée à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour relancer l'économie, le gouvernement invite les Français, je cite, « à se faire plaisir ». Ça peut marcher selon vous?
Mais c'est une incitation à vider ses sacoches, comme on dit en économie. Mais attention, si on veut relancer l'économie en se faisant plaisir, il faut bien vérifier que l'on a affaire à une Française. Car sinon, l'argent partira dans les pays de l'Est, en Afrique ou même au Brésil.
Ah, vous avez une autre solution pour injecter cette épargne qui dort dans l'économie?
Mais pour stimuler la dépense, il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Oui. Prenons les îles de Pubis et Fufuna.
Alors, François, peut-être vous pouvez nous les situer.
Très jolis endroits.
Alors, oui. Pubis et Fufuna, c'est un petit archipel du Pacifique où la monnaie est la noix de coco. Eh bien, le roi coutumier, tu l'as vu de mon cul, a instauré une loi très simple. Pour éviter que les sujets épargnent leurs noix de coco, ils les confisquent et les mangent.
Ils mangent toutes les noix de coco ?
Non, ils mangent les épargnants. Je donne d'ailleurs quelques recettes d'épargnants à la sauce Le Maire dans mon dernier livre, Quoi qu'il en goûte.
Trop vite. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr et puis dans nos matinales du week-end avec Vincent Perrault et Stéphane Carpentier. Dans quelques instants, la cuisson des cookies avec Monsieur Cyril Lignac. Je vous le dis, ça va vous plaire.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bon, alors Lilou, elle vit à Arcueil et elle vous demande comment bien réussir la cuisson des cookies et quel chocolat utiliser. Alors ça, on adore tout ça les cookies, mais encore faut-il y arriver.
Alors, déjà, une fois qu'on a mélangé toute notre pâte à cookies, ce qui est essentiel, c'est de former un boudin. C'est-à-dire, on prend la pâte et on roule comme si on faisait un pain. Ensuite, selon la taille du boudin, on va avoir la taille du cookie.
D'accord.
Et ce qui est génial avec le cookie, c'est qu'une fois qu'on a fait notre pâte, on en fait un peu plus, on fait le joli boudin. Moi, j'utilise les cookies pour le jour. Et ce qu'il me reste, je le mets dans du papier film et je le mets au congélateur.
D'accord.
Il faut savoir que ce qui est génial avec le cookie, c'est qu'on peut en faire à l'avance. On le roule en boudin. On le met au congélateur. On le sort avant pour le goûter. On taille des petites rondelles qu'on dépose sur un papier sulfurisé,
feuille de silicone,
okay. etc. Et là, on le met à cuire au four. Donc à peu près 15 bonnes minutes. Il faut que ce soit cuit. Un bon cookie, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur.
Milieu. Mais il faut les aplatir ou pas les cookies ?
Alors non, il s'aplatit tout seul. C'est-à-dire que une fois qu'on a formé ce boudin, on taille des tranches et donc on a déjà la forme ronde du cookie. Quand on va le mettre à cuire sur la plaque, il va s'étaler tout seul. Donc justement, on n'étale pas du tout, on fait ce petit boudin et on taille des tranches.
Très bien.
Alors après, la deuxième question, c'est quel chocolat utiliser ?
Oui.
Alors, moi, le chocolat, c'est un peu comme un assaisonnement du cookie. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien mélanger chocolat au lait et chocolat noir. Donc, si on aime plutôt chocolat noir, on prend 70% de cacao avec du guanara, que j'adore, qui est bien amer, un assemblage de cacao un peu de République Dominicaine ou du Ghana. Donc là, c'est quand même assez fort.
70%.
Pour les amateurs. Maintenant, si on le fait pour des enfants, c'est quand même mieux de mettre un petit chocolat au lait ou de couper les deux. Moi, je l'aime bien comme ça. Je vous donne la recette du cookie rapidement.
Oui.
Allez, 120 g de sucre cassonade, 120 g de sucre, 300 g de farine, 6 g de levure.
Parfait.
On ajoute 175 g de beurre mou.
Mou.
Et ensuite, on met un œuf. Et on met, alors comme je vous le disais, 190 g de chocolat au lait, 190 g de chocolat noir. On met des petites pistaches ou des fruits secs. On mélange tout ça, on fait le petit boudin, on taille des tranches et on cuit au four.
Il ne reste plus qu'à passer en cuisine pour essayer la recette. Bon week-end Cyril et à lundi.
Merci.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
D'abord la mise en examen cette nuit de deux mineurs de 16 et 17 ans dans le cadre de l'enquête sur la mort mardi d'un petit Syrien de 5 ans percuté par un véhicule. Ça s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Défaut de permis de conduire et délit de fuite pour le jeune chauffard. Complicité de délit de fuite pour le passager. Un coup de pouce de 400 millions d'euros supplémentaires pour l'aide aux personnes âgées, annonce de Jean Castex. Plus de la moitié de l'enveloppe sera consacrée aux interventions à domicile. Le maintien chez soi des seniors étant le premier objectif du gouvernement. Un QR code contre une somme d'argent sans passer par la case vaccin. La chasse aux faux passes sanitaires s'amplifie depuis la rentrée avec près de 350 procédures engagées. Au total, 270 soignants sont suspectés de fraude et 36 000 assurés soupçonnés d'en avoir bénéficié. Après son mandat musclé face à... son débat, pardon, musclé face à Jean-Luc Mélenchon.
Mandat pas tout
suite, encore. Éric Zemmour sera tout à l'heure l'invité du sommet organisé à Budapest par le président Viktor Orban. Le polémiste sera d'ailleurs reçu en tête à tête par le dirigeant hongrois, un sommet consacré à la démographie qui réunit tout ce que l'Europe compte d'identitaire et de nationaliste. L'arrestation en Sardaigne de l'ancien président catalan Carles Puigdemont en exil en Belgique depuis 5 ans, depuis sa tentative de sécession de la province espagnole. Les juges italiens doivent décider tout à l'heure de sa remise en liberté ou de son extradition vers Madrid. Et puis la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se dit prête à interdire les déplacements de supporters si l'urgence se présente. Elle était ce matin l'invitée de RTL. Une mesure forte qu'elle considère néanmoins comme un recul après des années d'efforts pour tenter de ramener le calme dans les stades de football.
Merci beaucoup Dominique Tenza. Merci à vous qui écoutez RTL. Il est 9h02.